Bienvenue dans cet épisode spécial de Entrepreneurs Set of Africa. Spécial parce qu'on est en Guadeloupe, mais spécial parce que malheureusement, mon associé, partenaire, co-hôte, mon jumeau, mon frère d'une autre mère, Kyle Lumumba, n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Il a été pris par des impératifs. Nous sommes en Guadeloupe pour un épisode spécial. Et donc, on a été reçu par Vanessa, qui va être ma co-hôte de notre invité très spécial. Mathieu Vence.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Ah mais de rien, écoute, je pense que cet épisode spécial, donc Entertainment, je pense que c'est dont on va parler, va être intéressant. Et je pense que beaucoup de gens vont découvrir l'envers d'un monde plein de glamour qui est en fait bien plus complexe qu'il n'y paraît en termes de business. Donc Mathieu, je vais déjà te demander de te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas.
Ben, je m'appelle Mathieu Vence, je suis business manager, j'ai créé une société qui s'appelle Vence Entertainment, dans laquelle je produis, édite, développe et manage tout type de talents, aussi bien musicaux, Instagram, influenceurs, et nous développons également des médias, des magazines et d'autres types de supports.
Très bien, ça c'est l'introduction officielle. Donc maintenant je vais faire l'Atalakou ivoirien, au cas où tu ne connais pas. L'Atalakou ivoirien, c'est quand on emploie les grands mots, les grands noms pour expliquer aux gens, pour gens qui ne te connaissent pas. Donc moi, quand je suis sur ton site Vence Entertainment, je vois dans la partie Works un portfolio assez impressionnant. Donc apparemment, tu as bossé en management, stratégie et concert avec l'artiste, pour ceux qui ne connaissent pas.
Tout à fait.
Très, très grand artiste. Mais avec des campagnes aussi Yves Saint-Laurent, Cacharel, L'Oréal. Je vois que tu as aussi travaillé avec une autre artiste, Marwa Loud.
Tout à fait.
Tu as travaillé sur des chansons avec Sean Paul. Des chansons avec Aya Nakamura, des chansons et direction artistique avec Anita, pour ceux qui ne la connaissent pas.
Tout à fait, grande artiste brésilienne.
Grande actrice brésilienne. Et donc, tu as bossé avec tout type de marques, de L'Oréal, etc. Donc, on va dire que, en fait, oui, Dior, Ford, Kalash Crime Criminel, Nino sur des instruments.
Oui.
Ronisia sur des chansons aussi. Biotherme, enfin, avec très qui varié. N'as-tu pas travaillé? Là, est plus la question.
Très varié, effectivement. On veut éviter d'être cantonné dans un seul style. Ouais. Donc, pour essayer de toujours se renouveler, ben on se prend des nouveaux défis, on teste, on essaye. C'est pour ça qu'on ne se donne pas de limites.
Très bien. Alors, Vanessa, comment tu t'as connu Mathieu? Parce que moi, je crois voir que ce monsieur est dans le game depuis 10 ans.
Alors, en fait, tout simplement, le Boost Up Experience, dont on a déjà parlé dans le précédent épisode.
Exactement.
C'est donc l'événement Guadeloupe pendant deux jours dédié aux porteurs de projets et aux entrepreneurs, qui s'est déroulé donc aux Abîmes, où on avait des intervenants de qualité du monde entier qui sont venus au pays pour faire part de leur expérience entre conférences, tables rondes, ateliers, business stories, effectivement. Nous avons eu le plaisir d'inviter M. Mathieu Vence, justement, à faire part de son expérience et de pouvoir vraiment... Enfin, voilà, c'est-à-dire que l'objectif, c'était de pouvoir avoir effectivement des profils internationaux, mais aussi montrer qu'en local, on a aussi des entrepreneurs qui ont des parcours tout aussi inspirants et louables.
Ouais.
Et Mathieu est guadeloupéen et est devenu vraiment une personne, un entrepreneur...
Represent.
Un entrepreneur vraiment a un parcours et justement avec tout ce que tu viens de nous dire, on a hâte de savoir la suite pour qu'il puisse raconter justement à la communauté comment il a fait.
Oui, comment tu as fait? Si jamais on te demande qu'est-ce qui toi te distingue de tous les autres business managers, producteurs. Déjà, est-ce que tu peux expliquer
la différence? Oui, tu peux nous expliquer déjà.
Parce qu'en vrai, le peuple est perdu.
Ouais,
on est un peu perdu. Business manager, manager, producteur. Ouais, c'est quoi cette histoire à la fin? Il y a trop de rôles, trop de noms.
Oui, oui, oui. Puis il y a les attachés de presse aussi. Donc du coup, tu sais pas...
Qui fait quoi? Donc non, toi, tu définirais comment ça?
Impresario, ça se dit toujours?
Ça se disait. Maintenant, on l'utilise beaucoup moins.
Ah ouais?
Ah oui.
Mais en gros, c'est vrai que dans l'univers de la musique, il y a beaucoup de rôles, beaucoup de titres, beaucoup de postes. C'est un peu comme un pilote d'avion.
Allez, une métaphore, c'est parti. Il fait beaucoup de belles métaphores.
Oui.
Soyez prêts, il est très fort en métaphore.
Un pilote d'avion, pour qu'il soit dans les airs, il faut 50 personnes au sol. Voilà. Donc, on a besoin des bagagistes, on a besoin des gens sur la piste, on a besoin des gens au comptoir, on a besoin des gens qui... C'est tout un univers. Donc, on voit les artistes, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, derrière les artistes, eh ben, il y a 50 personnes derrière. Et parmi ces 50 personnes, il y a le producteur, il y a l'éditeur, il y a l'attaché de presse, il y a le community manager, il y a plein de rôles.
Exactement.
Et donc, le business manager, c'est de coordonner l'ensemble de toutes ces personnes qui sont autour de la vie d'un artiste.
Chef de projet de haut vol, quoi.
Ouais, pire, parce que j'ai l'impression que ce que tu disais, c'est que ce n'est pas juste la musique que, du coup, que tu gères. Tu gères aussi leur campagne publicitaire, toutes leurs sources de revenus. Donc ça va du concert, tu as fait des concerts, tu m'as dit.
Tout à fait. En gros, business manager, c'est un ensemble. C'est créer l'écosystème qui va permettre à l'artiste d'être meilleur. Donc des fois, ça peut aller jusqu'à s'assurer que ses chaussettes soient propres.
Sérieusement, que ses chaussettes soient propres, il a dit.
Ah oui, oui, oui. Il y a des fois des certains artistes, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, DMX, lui, quand il allait faire un showcase, il voulait absolument un fauteuil rouge. Si tu lui donnais pas un fauteuil rouge sur son rider, c'était marqué fauteuil rouge s'il arrivait dans le showcase.
Déjà, est-ce que tu peux expliquer au reste du monde c'est quoi un rider? Parce que moi, je connais le concept du rider, qui est donc l'incarnation de l'aspect diva des artistes.
Tout à fait. Mais le rider, c'est un artiste, il vient, il se pose, il te dit, donc moi, si je dois faire un concert ou quoi que ce soit, j'ai besoin de bouteilles d'eau, j'ai besoin de whisky,
Marque de bouteilles d'eau,
ah oui,
de tel goût, de tel...
Vraiment, la précision des fois peut-être diabolique. Et donc, certaines fois, ils ont ça et après, on l'envoie ensuite au club ou à la personne qui veut faire le concert. Ouais. Et si tout ce qui est dessus n'est pas validé, l'artiste peut dire, j'avais demandé des bouteilles d'eau Matouba, c'est pas la marque que j'ai demandé. Allez, suivant.
Je pense que c'est un métier aussi qui a été créé parce que, au début, je sais pas, dans les années 50, dans les années 70, on faisait juste des tournées et puis c'est tout, quoi. Il n'y avait pas à développer, de se dire, voilà, l'artiste va lancer une marque de tequila, va lancer une marque de cosmétiques, doit aller là, doit se faire... Donc aujourd'hui, c'est tout... Et surtout, c'est que la carrière d'un artiste ne se joue pas uniquement sur les ondes radio, etc. Ça se joue aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Parfois, ça peut être la communauté sur les réseaux sociaux qui fait monter aussi l'artiste. Il suffit qu'il y ait une chanson qui soit un peu tiktokable ou quoi. Et c'est le buzz assuré. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le territoire d'expression d'un artiste est bien plus large.
Complètement.
Il y a des décennies. Et donc, du coup, ce qui fait que ton métier aujourd'hui existe et d'une complexité
grandissante.
Voilà.
Et donc, qu'est-ce que tu as vu de plus fou sur les riders des gens? Parce que moi, je suis très, comme tu sais, Congo, ça business, moi, ça m'intéresse.
D'accord.
Donc là, on a parlé du fauteuil rouge, mais qu'est-ce qu'il y a de ton expérience? Parce que le rider, en gros, si la personne ne respecte pas, l'artiste n'a même pas remboursé, il part avec l'argent.
Ah non, mais oui, ça fait partie du contrat.
C'est ça le point, parce que je pense que c'est ce qui est violent pour un organisateur, c'est que si tu te foires sur le rider, tu peux perdre l'argent et l'artiste.
Ah oui. Bon. Alors moi, la chose la plus folle que j'ai déjà vue sur un rider, c'est des bouquets de fleurs.
Pardon ?
Un artiste a demandé des bouquets de fleurs.
Spécifiques ? Des fleurs spécifiques ?
Et donc, l'organisateur est venu, il a mis des bouquets de fleurs dans la loge, et l'artiste était fâché.
Pourquoi ?
La personne, il demandait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il est fâché ? Parce qu'en fait, le rider, quand il avait dit bouquets de fleurs, ça voulait dire de l'herbe, pour fumer tranquillement.
Oh.
Mais il fallait, mais ça ne peut pas s'écrire sur un rider.
S'écrire.
Ça ne peut
pas s'écrire. La.
Donc il a mis bouquet de fleurs. Mais le mec en face qui n'avait pas compris le code.
Personne.
Il y a un code. Nous autres, les boomerangs, nous voilà.
Si, donc bouquet de fleurs, c'est pas de. Je rentre chez moi.
Donc vous saurez tous que si jamais vous voyez bouquet de fleurs sur un jour, une demande d'un artiste, ce que vous devez aller chercher.
Par contre, si vous demandez d'ouvrir un bouquet de fleurs à sa mère pour la fête des mères, vous ne trompez pas non plus.
Ce ne serait pas à lui envoyer des fleurs médicinales.
Oh,
Ce serait
c'est une façon. Donc, à prendre en considération.
Mais du coup, tu vois, c'est intéressant. Quand tu décris tout ce que tu dois gérer en termes de, on va dire, de complexité et d'aspect, donc là, tu décris vraiment le limite du micro-management, du confort de l'artiste, en fait. Comment tu expliques? Parce que je sais que dans la musique, notamment, c'est très fréquent, mais peut-être un peu aussi dans le cinéma, il y a tout un sujet sur le fait que beaucoup de gens sont accompagnés par leurs amis, leurs connaissances, qui ne sont pas forcément professionnels, on va dire, ou expérimentés. Donc pour toi, qu'est-ce qui fait un bon manager versus tout le reste?
Donc, j'ai deux types d'artistes.
D'accord.
Ceux qui sont mieux quand ils sont accompagnés par leurs amis et ceux qui sont moins bien quand ils sont accompagnés par leurs amis.
Oh, ça c'est une grande théorie. L'entourage peut être un problème.
Ça change complètement.
Comme ça peut être positif. Une maman peut être la meilleure chose qui soit pour un artiste, comme ça peut être la pire.
Voilà.
Donc, comment tu les reconnais?
Alors c'est simple. Quand on arrive par exemple à un concert, c'est souvent les amis qui disent « il n'y a pas le champagne? Pourquoi on est assis là? Pourquoi on n'est pas devant ? Là, tu sais que ces amis-là, ça va être très compliqué. C'est des gens qu'il faut éliminer tout de
rapidement.
Suite. Ah oui. C'est eux qui vont te faire mal. Et ils m'ont déjà abîmé des plateaux télé. Ils ont dit, mais un jour, un de mes artistes, pourquoi tu es sur le plateau numéro 2 ? Il fallait que tu sois sur le numéro 1. Toi, tu es le numéro 1. Tu dois être que sur le numéro 1. Alors qu'en fait, le plateau 2 était plus grand, mieux. Donc, l'artiste a dit, non, moi, je vais être sur le plateau numéro 1.
Il a répété ce que les gens ont dit.
Voilà, alors qu'il était en fait sur le plateau le plus flingué. Mais.
Seigneur.
Je pense que c'est quand même assez complexe. Quand tu as un poste un peu comme ça, business manager, et qu'en fait, la qualité, le succès de l'opération ne dépend pas entièrement de toi. Enfin, de toute façon, on a rarement le contrôle sur tout, qu'on soit clair. On est peut-être un peu control freak, moi la première, mais on a rarement le contrôle sur tout. Ouais. Mais c'est vrai que quand on évolue dans un milieu artistique, on sait que le pragmatisme n'est pas forcément au cœur des préoccupations. Ouais. Et que, bien entendu, il y a beaucoup d'affect, d'inspiration, de créativité, ou voilà, qui vont tout de suite dire ben non, je veux du jaune parce que le jaune, c'est une couleur qui me parle, alors qu'il faudrait peut-être prendre du noir. Enfin, voilà. Donc, c'est là c'est ça, où je trouve que c'est quand même un milieu qui, pour moi, serait assez difficile parce que, déjà, en temps normal, lambda, quand un client te dit oui, moi, je veux ça et que tu lui fais des recommandations, tu lui fais des conseils parce que c'est ton expertise et qu'en plus, il t'a pris en conseil parce que c'est ton expertise et pas la sienne.
Ouais, en théorie.
Et, au moins, il va argumenter, etc. Mais quand un artiste dit non, finalement, je préfère le bleu parce que c'est la couleur qui me ressemble en ce moment, qui va bien avec mon feng shui ou un truc. Je fais exprès de dire des trucs, des bêtises pour, voilà, pour pas. Voilà.
Pour caricaturer.
Pour caricaturer. Comment on fait?
Non, mais c'est une bonne question. Comment toi, là, tu décris les entourages qui aident ou amplifient? Enfin, aide ou détruise, mais à ton avis, pour toi aujourd'hui, à quel moment un artiste devrait trouver un manager déjà? Ou alors, devrait. Comment tu verrais ça, toi, en termes de. Un artiste vient te voir aujourd'hui et te dit, est-ce qu'il me faut un manager ou pas? Ou...
Alors, par exemple, je travaillais un moment avec Christophe Maé.
Ah,
Christophe Maé.
Tu vois, il était pas sur la belle liste, hein, mais on le connaît, Christophe Maé.
Christophe Maé, lui, il a commencé dans le métro. Et il a dit, quand j'étais dans le métro, j'avais pas de manager. Donc maintenant que ça va mieux, je ne veux toujours pas de manager.
Sérieux?
Ouais.
Ah, dit, intéressant.
Je commençais tout seul, ben je serai tout seul, j'ai besoin de personne.
Ok.
Donc, quand je travaille avec lui, on ne travaille pas de la même façon que des artistes qui ont des managers.
Ils sont des. Par exemple, quels artistes. Enfin, tu dirais, quels artistes sont. Parce que j'ai l'impression que c'est emblématique. Quand tu as un manager, c'est un peu ton alter ego, mais que les gens ne connaissent pas, en fait, c'est ça?
Il y a différents types de managers.
Préserver tes intérêts, ouais. C'est surtout à la base pour préserver, négocier tes intérêts, non?
Ça dépend. Des fois, tu as des managers qui sont, on va dire, plus des coachs mentaux. Ils arrivent à stimuler l'artiste, le cadre, et lui dire, vas-y, donne le meilleur de toi.
Ah, le mettre dans les conditions pour performer.
Exactement. Donc, des fois, c'est ce type de manager qu'il a. Donc, ça peut être un manager, c'est un ami qu'il a depuis longtemps, qu'il connaît depuis petit. Mmh. Voilà. Mmh. Mais il ne va pas trop rentrer dans le côté business. Mmh. Ensuite, des fois, tu as des managers qui, eux, vont s'occuper que des contrats. Quand c'est l'heure de négocier, ce genre de choses. Ah. Eux, ils ne vont pas rentrer dans le côté coach affect. Mental, affecté, je te fais les meilleurs contrats. Enfin,
moi, je vais juste sous le contrat.
Voilà. Parce que l'artiste, il disait, j'ai besoin de toi qu'à ce moment-là. D'autres, des fois, il y a des artistes qui sont très susceptibles. Donc, il y a une façon de leur parler. Donc, on leur met un manager pour que le manager puisse traduire à l'artiste ce qu'on vient de dire.
Ah. Parler son langage.
Voilà. Quand tu dis, il y a des artistes, par exemple, tu peux pas lui dire, excuse-moi, t'as pas bien chanté, est-ce que tu peux refaire?
Ah, les artistes, tu peux pas leur dire ça.
Ah non, tu peux pas dire ça. Donc, tu dis au manager, est-ce qu'il peut refaire? Et le manager va dire, ils ont avait un problème dans leur micro, tu peux refaire, s'il te plaît, c'est le mec derrière qui est pas bon. Ah. Parce que si tu dis à l'artiste, c'est toi qui as pas assuré, t'as pas bien fait.
Wow.
En fuite diplomatique. Donc, des fois, le manager, c'est un traducteur, c'est un décodeur. Ça permet justement de faire en sorte que tout se passe bien.
Mais c'est un métier, ça. Hein, c'est non, un mais, métier de
et,
faire ça. Hein.
Et ce qui est terrible, c'est que ce que tu décris, il n'y a pas d'école pour ça, je pense.
Ah non, l'école, c'est le terrain.
C'est ça.
C'est le terrain. C'est chaque
pour
artiste
avoir le savoir-être nécessaire pour ça.
Et donc, de dire qu'un bon manager n'est pas forcément un bon manager pour tous les artistes.
Tout à fait.
Ah, mon ami.
Voilà. Et des fois, un bon manager, des fois, vaut mieux qu'il soit dictateur avec certains artistes. Et d'autres fois, il ne faut surtout pas être dictateur, il faut être plutôt démocratique. D'autres fois, il faut être un tyran, ça dépend de chaque personne. Des fois, sur certains sujets, tu dois l'être, sur d'autres, tu ne dois surtout pas l'être, ça dépend.
Mais du coup, qu'est-ce qui fait pour toi un bon manager? Si on devait situer toi, par exemple, tu te dirais aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça, tu as bossé avec des noms incroyables. Si on devait attribuer pour toi une qualité ou une façon que tu as de travailler, tu dirais c'est quoi qui te distingue de tous les autres
me distingue des autres, je ne sais pas, je ne les connais pas suffisamment, mais la chose sur laquelle moi je travaille personnellement, c'est l'écoute. Mais l'écoute, ça ne veut pas dire écouter, c'est trop facile. L'écoute, ça veut dire qu'est-ce que la personne est en train de dire derrière les mots.
Derrière les mots, ok. Ah
ouais, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué.
La
parce
perception
que,
des choses, c'est ce qu'il y a de plus compliqué.
Quand un artiste va te dire, ah non, aujourd'hui, je ne me sens pas trop pour faire ça parce que je ne suis pas bien, en fait, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bien, c'est peut-être parce qu'il a le trac. Donc je dois comprendre qu'en fait, il a peur. Comment le rassurer? Il faut comprendre derrière les choses ce qui est dit, c'est ce qui est plus compliqué. Donc, comme dans l'exemple que tu dis, oui, je préfère le bleu, mon feng shui, ben en fait, des fois, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est autre chose qu'il veut dire. Là, il se cache derrière ça pour dire que. Ah, donc toi, tu viens, tu lui ramènes le bleu, tout ce qu'il a demandé.
Ça va toujours pas.
Ça va toujours pas.
Seigneur Marie-Joseph.
Hey. C'est là que ça devient compliqué. Tu te dis, ah, mais comment régler un problème que même l'artiste, des fois, n'identifie pas. Même l'artiste ne sait pas qu'il a ce problème-là.
Mais alors que c'est des gens que tu connais pas forcément depuis leur enfance, par exemple, toi. Du
coup. Exact.
Oh, c'est des ressources humaines. Enfin, c'est très clairement le boulot de d'un RH.
Même les RH, je préfère ça. Hein. J'ai vu beaucoup de RH.
Même un manager. Enfin, mais même le manager. Enfin, ce que tu rencontres comme problématique, j'ai l'impression que globalement, quand on est chef d'entreprise, c'est pareil, il faut décoder si tes salariés se sentent bien ou pas dans la boîte.
Alors, c'est quand même différent.
Des fois, moi, je vois des exemples où des fois, la personne te dit rien, te dit tous les jours, oui, ça va, tu me demandes, est-ce que ça va? Est-ce que t'es OK? Est-ce que si? Oui, 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 oui. Et puis, un beau matin, la personne explose, tu sais même pas pourquoi, parce que tu as posé la question 100 fois, elle ne t'a jamais rien dit.
Certes, mais la différence, c'est que là, tu peux au moins... Je pense que la frontière est un peu plus claire sur l'objectivité du travail. Le problème, c'est que le travail qu'eux ont à faire, ils te disent, le mec... il fait même pas forcément bien son travail et toi, tu saurais même pas savoir pourquoi il fait pas bien le travail. Tu vois, normalement, un employé à qui tu donnes une tâche, à minima, tu connais la tâche, tu la contrôles.
Oui.
Le manager, j'ai l'impression qu'il est pas artiste. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, tu me parlais, il y a peut-être des managers qui veulent être artistes.
Ah oui.
Ça, c'est un autre problème.
Il y a des artistes, des producteurs qui veulent être artistes. ça, c'est encore toute une autre gamme de personnes très compliquées à gérer.
Des producteurs qui veulent être artistes.
Ah voilà. Oui, il y a des producteurs qui souhaitaient être rappeurs ou artistes. Ils ont raté leur carrière et finalement, ils ont trouvé un petit dans la cité et ils décident de mettre un peu d'argent pour les aider à se développer. Mais en fait, c'est eux qu'ils auraient aimé être eux-mêmes des rappeurs. Donc, au bout d'un moment, l'artiste fait des chansons et tout. Et un jour, le producteur dit, viens, tu fais un featuring avec moi, je chante aussi.
Hop là. Tu veux, tu veux pas.
Ah, le mec a déjà payé la moitié de ton album, il te dit on fait un feat ensemble. Tu peux dire tonton. Ah,
c'est daté.
C'est compliqué ce genre de situation.
Ah, oui, oui, ça arrive très souvent.
Et tu disais que même ça arrive des fois que les producteurs ben, en fait, hijack la popularité de leurs artistes.
Ah oui, j'ai déjà vu des producteurs. Un jour, une radio voulait travailler avec un artiste et ils sont allés voir le producteur. Et le producteur a dit mais pourquoi vous voulez de mon artiste comme vous voulez faire qu'il fasse quoi, chroniqueur dans votre radio? Je suis meilleur que lui. Ne le prenez pas, prenez-moi. Ils ont dit non mais on veut votre artiste. Mais vous avez pas besoin de mon artiste, prenez-moi.
Tu t'imagines? Ah ouais. Et là, ça t'as pas ça avec tes employés, hein. Tu as pas hijacké tes employés.
Quoique.
Non mais tu veux prendre le poste de ton employé. Tu t'imagines toi?
Ah, oui,
non, lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que
c'est
il veut prendre l'opportunité pour laquelle il est payé. Il est payé quand la personne fait l'opportunité, hein. Mais il veut personnellement, c'est ça, c'est la
c'est
gloire.
Ça, c'est
parce
ça.
Que eux, il y a une rémunération, ouais, qui est haute, qui est le fame.
C'est
qui
ça.
Est le fame. Et c'est ça qui, je pense, rend.
Je pense que ça arrive à beaucoup de gens, hein. Même les personnes qui ont paraissent faire une carrière, mais qui sont très bons pour eux, en termes de, qui sont très bons paroliers ou qui sont et qui ont toujours des regrets. Après, je pense que chacun a une opportunité. Enfin, je pense que c'est un secteur qui est difficile parce que. Quand on parlait d'étoiles filantes, c'était pas pour rien, c'est que tu as une fois l'opportunité de fonctionner, et comme comeback, il y en a, mais pour moi, ce sont des règles qui confirment la généralité. Faire un comeback après 10, 20 ans, 30 ans et tout, il y en a eu combien en hexagone, je sais pas, mais très peu.
Très peu, c'est vrai.
Il y en a peut-être plus eu aux États-Unis, mais... donc, on n'en a pas encore parlé, mais
le
la
tube.
Musique en France, c'est quand même pour pouvoir être signé, pour pouvoir que son style soit diffusé en radio, c'est quand même compliqué.
Très compliqué.
Encore moins si on n'a pas la bonne couleur de peau.
C'est une équation très complexe.
Ah, ben, parle-nous-en, comment tu l'as résolu? Donne-nous un exemple, peut-être avec tes artistes de CAI qui ont été compliqués, peut-être.
Mais déjà, il faut comprendre c'est quoi un artiste. Quand. On joue au football, tu as un Neymar, tu as un Messi, tu as un Zlatan. À la fin du match, on peut regarder le match et se dire, toi, tu n'as pas bien joué. Toi, ce n'était pas bon. Là, tu aurais dû faire la passe. Là, tu aurais dû faire ci. Tu vois, il y a des résultats à la fin.
Ouais.
Un artiste qui fait une chanson, comment tu peux dire ta chanson est bonne ou elle n'est pas bonne?
Oui.
Parce que ça dépend de tellement de paramètres. Des fois, la chanson était bonne, le clip était bon, c'était le bon moment, mais ça n'a pas pris et on ne sait même pas pourquoi.
Donc, ça fait qu'un artiste, c'est difficile pour lui de se remettre en question. Parce qu'il ne peut pas dire, c'est ma chanson qui est nulle, c'est moi qui suis nul, je n'ai pas bien fait la chose. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Numéro 2, quand tu es un entraîneur de football, est-ce que vous pensez qu'un entraîneur de football va expliquer à Messi comment jouer au football?
Oh oui, ça c'est impossible.
T'es mais comme arrivé à un certain niveau, tu n'es pas là pour leur apprendre à jouer au football. Les artistes, c'est la même chose, tu ne veux pas leur apprendre à chanter ou à faire. Non. Ça passe à un autre niveau, en fait.
Mais peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle pourra faire quelque chose pour ça. On va dire, voilà, t'as fait tel titre, telle date. Pourquoi ça n'a pas marché, tel titre, telle date? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ce titre-là et ce titre-là?
Le problème, c'est que quelle donnée tu collectes? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il te dit, en fait, il y a des données qui, malheureusement, ne sont même pas collectables. Ça se trouve, l'artiste, la musique était bien, mais ce jour-là, il n'avait pas la bonne énergie. Tu vois, c'est des trucs, tu peux pas, malheureusement, tu manques de données, en fait, clairement. Moi, en tant qu'entrepreneur, ce que j'entends, c'est qu'il dit, en fait, tu opères dans un monde. Oui, il y a énormément de paramètres qui ne sont pas quantifiables.
Tout à fait.
Comment vous faites dans ces cas-là? Enfin, comment toi, tu fais genre... Par exemple, comment tu choisis un artiste en te disant, cet artiste-là, je sens que ça va être un carton. Et
comment tu fais, surtout pour savoir quand tu sens que ça sent le flop ou que...
ou le airball, exactement.
Ouais.
Le
airball,
comment tu fais ça?
Et pour illustrer ce que vous dites, souvent, il y a des chansons qui n'ont pas marché et deux ans plus tard, sur TikTok, ils explosent.
Oui, exact. Ben oui, le CK, là, que j'entends partout ici, là, Emiliana, sa chanson, il l'a sortie des années avant.
Oui.
Il a suffi que deux sœurs là, fassent une danse dessus. Et là, carton mondial, le gars, sa carrière a changé.
On voit souvent, enfin, après, je pense qu'il y a un regain sur TikTok de son old school où on va chercher de piocher dans un son qui disait une petite phrase ou deux, trois phrases sympas.
Voilà, ou juste, là, comme tu dis, des fois, c'est juste qu'ils prennent une partie de la chanson.
Exact.
Qui, là, devient, je vois, c'est juste un bruit que la personne fait, qui modifie. Mais comment toi, tu reconnais aujourd'hui, comment toi, t'opères en tant qu'entrepreneur là-dedans? Parce qu'en fait, toi, c'est un peu comme si, bon, je vais être un peu méchant, mais c'est comme si c'est des produits dans lesquels t'as investi, hein, un artiste.
C'est ça.
Comment tu choisis le bon produit? Est-ce qu'après tu choisis le bon produit et tu dois te retrouver un marché qui correspond? Au contraire, tu te dis, ah, sur ce marché, il me manque un produit et je vais chercher qu'est-ce qui colle.
C'est ça la complication dans la musique. C'est qu'en fait, dans la musique, personne n'attend quelqu'un. Autant on peut dire que un yaourt qui a un nouveau parfum. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient ce parfum en yaourt. Mais il n'y a personne qui s'est dit avant que Jul arrive, oh, on aimerait bien avoir un petit Jul, un mec qui fait de la musique c'est du comme rap comme ça.
Voilà,
comme
ce serait pas mal. Du rap, mais pas vraiment du rap.
Ça manquait à personne jusqu'à ce que Jul vienne. Ah, ok, c'est Stromae, cool. Il manquait à personne jusqu'à ce qu'il arrive. Donc on dit, ah ouais, Papa Outir, c'était bien.
C'est bien.
Et c'est ça, mon milieu, je suis dans un milieu où en fait on n'attend personne, on n'a besoin de personne. Que tu sois là ou pas là, il y aura toujours de la musique.
Il n'y a pas de demande du marché.
Non.
Il n'y a pas d'études de marché.
Non.
Donc, pour faire ton produit market fit, comme dit Moulin. Ouais.
T'es un peu en galère. Mais comment tu fais? Moi, je suis curieux d'avoir ta logique. Comment tu fonctionnes?
Donc là, en fait, je fonctionne sur trois types de terminologie particulière. Mm-hmm. La première, c'est l'évolution de la culture. Mm-hmm. Exemple, est-ce que vous pensez qu'une fille comme Shai aurait pu exister il y a 10 ans?
Mm.
Est-ce qu'on était prêt
Shai?
À... Oui.
Shai.
Ah oui, oui, oui.
Il y a un moment, est-ce qu'on aurait pu...
Ça va, aller respire.
Non, c'était pas possible.
Est-ce que vous pensez que Gims, avant le rap, c'était que du rap, le rap chanté, ce genre de choses...
À l'époque d'Akhenaton et tout, c'était mort.
C'était,
ah oui
il serait sorti à l'époque d'Akhenaton ou Sniper ou Saiyan Supakru, tout
pense
ça. Je
pense qu'il aurait eu un public différent, non? Non, pas forcément. Peut-être que le public n'était pas encore assez éduqué, tu veux dire.
Non, ouais, parce que pour moi, il fait partie d'une génération aussi qui est... Enfin, Gims, pour moi, il est... effectivement, il sortait du rap, mais il y a aussi une génération de chanteurs de variété française aujourd'hui qui est différente, à mon sens... de celle d'il y a 10-20 ans, même si qui repioche un peu des choses, etc. Mais Kenji Girac, il n'y en avait pas avant. j'en oublie certains, mais je n'ai pas de nom là tout de suite, mais qui ont une façon de chanter et tout qui est assez différente. Donc chaque époque a ses tendances.
Exactement, et vous voyez, le rap a traversé les époques, on va dire, mais ce n'est plus tout le même rap d'il y a 20 ans qu'il y a 10 ans. Pourtant, qu'est devenu le R&B pendant ce temps? Alors qu'avant, c'était le rap et le R&B.
Ah, c'était lié, ouais, c'est vrai.
Donc où est le R&B? Est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il est une évolution ou pas?
Il y a eu une traversée du désert quand même. Il y a eu une traversée du désert. Et là maintenant, il y a un truc qu'on appelle du R&B. Mais moi, comme je suis une puriste, je ne ferai pas de commentaires sur le R&B français.
Mais je t'en prie, on est là, tranquille. Tu peux faire du R&B américain, voilà, français. Parle, livre-toi.
Non, mais, le R&B américain n'est pas... Je pense que je suis comme mes parents et je crois qu'avant c'était mieux, qu'avant il y avait beaucoup plus de musicalité.
Ça, ouais. C'était mieux avant, tout le monde dit c'était mieux avant, les gars.
Je ne retrouve pas beaucoup de musicalité dans ce qu'on a aujourd'hui et j'ai l'impression que moi, à 4 ans, en train d'écouter du Michael Jackson, du Stevie Wonder toute la journée, j'étais bien plus, je ne vais pas dire ce mot-là, mais je sentais que j'avais beaucoup plus de connaissances en musique que des jeunes aujourd'hui qui écoutent d'autres artistes à 20 ans où la musique n'a ni queue ni tête, où les paroles ne veulent rien dire.
C'est marrant, tes parents disaient la même chose pour toi, hein.
Non, c'est faux.
Moi, je pense que c'était pour pas
mes
avoir...
Mes parents aimaient Michael Jackson, comme moi j'aimais Michael Jackson.
Non, mais
en fait.
Parce que là, c'est la musique plus de tes parents, en fait, Michael Jackson. C'était l'époque où ils étaient...
Non, ma musique aussi.
Oui, voilà. Mais c'est-à-dire, voilà, toi, tu l'as prise. Mais si tu regardes les musiques qu'eux écoutaient, toi, t'aurais du mal à écouter forcément les mêmes musiques quand ils étaient jeunes. Là, tu compares des jeunes à des vieux. T'étais plus une jeune, madame. Ni nous, on n'est plus des jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, le gros sujet que lui, il évoque, c'est que les tendances, ça peut passer les générations, mais à un moment, il y a bien des tendances profondes d'une génération qui arrive. Tu vois, et je pense que musicalement, on ne peut pas dire... Tu vois, mes amis qui me disent « c'est toujours mieux avant », je leur dis « mais qu'est-ce que vous écoutez d'aujourd'hui ? Combien de musiques vous écoutez en nombre qui sont récentes versus le nombre de musiques que vous écoutez qui sont passées ?» Les gens ont tendance à écouter ce qui leur est familier. Donc la découverte de la musique aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, parce qu'il y en a plus. Avant, je me souviens, ma mère me disait, mais parce que ma mère est prof de musique, petite histoire. Et elle dit souvent aux gens « vous savez qu'avant, la musique, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas on demand ». Mm-hmm. Avant, tu devais aller à un concert, tu écoutais de la musique. Y a pas, tu ne vas pas te lever comme ça.
Oui.
Quand il y a eu la radio, c'était si ça passe maintenant, ça passe maintenant. Et au début, tu ne pouvais pas enregistrer. Donc, si tu veux, il y avait une notion de...
De rareté et de respect de ce que c'était, justement, qu'on n'a plus aujourd'hui. Ça, ouais. C'est sûr, maintenant, on la consomme. Enfin, de toute façon, on est dans une société un peu...
Surconso.
Surconso, ah. Poubelle, on prend, on jette, on prend, on jette, on prend, on jette, on prend, on jette.
Donc, je peux entendre que la qualité, effectivement, est moins prime moins, mais je pense qu'il y en a toujours. C'est juste qu'elle est, elle est plus maintenant diffuse, parce qu'il faut aller la chercher.
Oui, ça c'est sûr, c'est qu'il y a encore des bons artistes qui font de la bonne musique, je ne dis pas le contraire, mais je dis simplement que quand on écoute
la majorité,
le top, les billboards et compagnie, ce qu'on voit, c'est pas, niveau musicalité, c'est pas, ça vole pas très haut, même en termes de chant, enfin, il y a une époque où on appréciait entendre des chanteurs, des chanteuses qui savaient chanter, maintenant aujourd'hui on te dit tu chantes faux, c'est pas grave, un vocodeur ou autre chose, et... voilà, et après on voit les gens sur scène en live, on se dit, bon...
Toi, tu en penses quoi du coup? Est-ce que tu trouves que la musique était mieux avant?
En fait, j'ai envie de dire que la musique appartient à ceux qui l'écoutent. Mm. La musique appartient au public. Mm. C'est le public qui décide à la fin de la journée. Donc, s'ils sont nombreux à aimer un style de musique...
C'est que c'est bon.
C'est que c'est bon. c'est dur à dire, mais en fait... On ça, est qui pour
vois,
dire
tu vois le vrai business guy. Non mais tu vois, ça c'est beau.
Moi je pense qu'on pousse les gens, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas la radio, s'il n'y avait pas la télé, s'il n'y avait pas les réseaux pour pousser, pour dire ouais, pour mettre en avant tel ou tel contenu, bah, les gens écouteraient autre chose en fait.
Ben, en fait, je vais prendre le problème à l'envers. Mm-hmm. Avant, tout le monde pensait que le rock c'était le top de la musique, parce que c'était des vrais musicos, c'était des live bands, c'était quelque chose de top. À tel point que la radio numéro 1 du rock s'appelait comment?
Je sais pas.
Non, Skyrock.
Skyrock, ouais.
C'est pour ça que ça s'appelait Skyrock.
Le ciel.
Aujourd'hui, Skyrock, c'est la première chaîne de rap.
Oh oui, c'est vrai que c'était le rock à la base, Skyrock.
Parce qu'ils se sont rendus compte que le rock était en train de mourir, que le nouveau public demandait du rap, et maintenant Skyrock est devenu numéro un du rap.
Ah.
Ils ont accepté l'évolution que le public a demandé.
Comme
et,
beaucoup de chaînes,
avant,
j'imagine.
Avant Skyrock, il y avait des radios de disco, de funk. Ils ne sont plus là non plus.
Donc en fait, oui, la musique, c'est comme tu dis, il y a quand même une notion de, oui, les trends, si tu les suis pas, t'es mort.
Et oui.
Donc ça, c'est ton premier critère, t'en avais trois,
donc,
t'avais dit.
Donc ça fait que même si toi, t'as envie de dire, non, je veux faire de la bonne musique, je vais éduquer le peuple à faire de la bonne musique.
Ah, ma man.
Ah, tu prends quelque chose de très compliqué.
Non, ouais, tu
très
prends
compliqué,
un travail
c'est un combat.
À bras le corps, voilà.
Donc toi, tu essaies de suivre les trends, déjà. Ça, c'était le premier critère, tu dis.
Donc,
choisir un artiste.
Il y a des tendances qui sont en train de se développer, le public est... aime de plus en plus certains types de musique, faut pas venir dire non, vous avez tort public, on va pas vous donner ce que vous aimez.
Amen.
Non,
et
faut si, donner ce qu'on veut, enfin faut si donner au public ce qu'il veut.
Vois, si on leur donne quoi, pas, marché,
si,
hein.
Si on leur donne pas ce qu'ils veulent,
oui, bien sûr.
Si on leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont dire je te mets de côté. Tu me donnes pas la musique que je veux voir quelqu'un d'autre qui me le donne.
Simple.
Donc il y a déjà cette première partie qui est super importante. Deuxièmement, est-ce que vous pensez que les gens écoutent la musique ou regardent un artiste? Quand ils y regardent PNL, ils aiment la musique ou ils aiment l'attitude des mecs qui sont que l'on voit.
C'est difficile de séparer les deux. Hein.
Et maintenant, comme je suis has-been en termes de musique, je ne vais pas pouvoir répondre à ces genres de
choses. je vais poser la question autrement.
Ouais.
Est-ce que vous pensez qu'un tube de PNL, chanté par Moussier Tombola, ce sera toujours un tube? C'est la même chanson, techniquement parlant. Donc si on parle de chanson pure...
La question, c'est est-ce que les remixes comptent dans ce que tu dis?
Non.
Ah, tu vois, j'essaie de tricher un peu, mais non, ça passe pas.
Je veux dire que la même chanson chantée par une autre personne, ben, des fois, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même style. Il faut que l'artiste puisse porter, représenter, incarner l'univers qu'il est en train de faire.
L'image.
Donc en fait, la trend, c'est une chose qui est extérieure, mais il faut que l'artiste lui-même incarne cette trend.
Tout à fait.
Mm-hmm. Il ne peut pas juste dire, moi, je vois telle trend, je vais dessus.
C'est plus complexe, il faut représenter concrètement la trend.
Et c'est là où le fameux truc des artistes, parce que j'ai malheureusement fréquenté beaucoup, il y a ce côté originalité. Authenticité qui est très très importante chez les artistes. Est-ce que tu dirais que c'est là que ça joue? C'est en fait, est-ce que tu réussis à la traîne que tu suis, c'est vraiment toi?
Alors, je distingue l'originalité et l'authenticité.
Ah tiens!
L'originalité, ça veut dire que ça n'a jamais été créé, c'est original.
Mm-hmm.
D'accord.
Voilà. L'authenticité, ça veut dire que ça te ressemble à toi. Donc des fois, tu peux créer quelque chose d'original mais qui ne te ressemble pas.
Wow, wow, wow,
C'est technique, ouais, tu vois.
C'est très précis.
Là,
tu rentres dans les trucs très précis, tu vois.
Qui fait que des fois, il y a des artistes qui sont authentiques.
Mais pas original.
Mais pas original.
Ouh, ça doit faire mal, ça.
Ouais.
Genre, t'es authentique, mais t'es comme
la
tout le monde.
La remise en question doit être dure.
Des fois, tu es authentique, mais ta musique n'est plus originale parce que ça fait 10 ans que tu fais la même musique aussi.
Oh oui. Donc,
tu vois.
Pouf.
quelqu'un de, de authentique, mais pas original. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu écoutes un album, un truc, c'est du réchauffé en vrai.
C'est la même chose, c'est ça que les gens
disent. C'est pas du réchauffé. Les gens qui n'aiment pas diront que c'est du réchauffé. Les gens qui sont fans diront que c'est pas du réchauffé.
Ouais, on va dire c'est lui, c'est
voilà.
Ça qu'on aime.
Certains vont dire que Jules est authentique. D'autres vont dire, mais ça fait 10 ans que Jules nous fait la même chose. C'est pas original.
Et en plus, il fait beaucoup d'albums, ce garçon. Il faut lui reconnaître ça.
Donc, ça fait que certains vont dire, non, il est plus authentique. Il est toujours authentique, c'est toujours lui. Mais sa musique n'est plus originale. D'autres vont dire, mais non, c'est original. Voilà.
Et t'en as d'autres qui sont originales, qui changent, qui se renouvellent à chaque album.
Mais tu sais que c'est pas...
Mais l'authenticité, tu sais pas...
À un moment, t'es perdu. Tu sais pas, il chante du zouk, après la fois d'après salsa, après du rock, du rap, il fait trop de choses.
Il y a un concept numéro 1, concept numéro 2, concept numéro 3. Et je pense que ce qui est le plus difficile, c'est... Enfin, moi, je suis pour team originalité, mais il faut l'authenticité. Et je trouve que on se perd souvent quand on doit, tout le temps est dans l'originalité. On va tout le temps te renvoyer dans le visage que « Ouais, mais tu faisais pas ce genre de musique. » C'est très difficile de te garder une ligne directrice. Il y a des artistes pour moi. Enfin, je suis désolée, mais moi, c'est une référence Michael Jackson. Chaque album, c'était un univers différent, un truc. Mais c'était Michael Jackson, sa voix, tu la reconnaissais.
Bah, c'est comme Rihanna, quoi. Chaque album n'a rien à voir, mais... était très authentique, original. Mais oui, non, tu écoutes pas Rihanna. Tu vois, moi, je suis dans les gens un peu récents. Ça va, Rihanna, tu peux quand même... Madame, Rihanna, ça passe quand même, c'est original et authentique quand même. tu peux laisser ça. Elle a du mal là. Là, je sens que je la mets dans
pas.
Une zone. Elle n'arrive pas. Tu vois là,
je ne sais pas.
Pourtant, c'est pas une petite jeunette là quand même. Tu peux, hein, c'est quand même
je
de la
pas,
musique.
Je ne sais pas. Je suis. Moi, j'aime les.
Toi, t'es old school quoi. Toi, t'es vraiment les meufs qui sont en mode old school de la mort qui tue quoi.
C'est-à-dire.
Michael Jackson, je te dis Rihanna, tu tires la bouche là.
Non, parce que pour moi, il y a quand même un écart.
Quel écart?
Bon, on va pas.
Alors, bon, tu vois, un autre jeu, tu non, vois que la musique, ça soulève ça. Les émotions. Hein.
C'est ça.
Je pense pas que. Bon, peut-être t'aimes pas le foot, mais même en sport, je pense pas qu'on. Tu peux chauffer le cœur de quelqu'un comme ça en comparant des athlètes. Parce qu'on parle des musiciens, les gens, leur cœur chauffe.
Surtout quand on parle de vraie musique. À partir du moment où on parle de la vraie musique, chaque personne a sa définition de la vraie musique. Tu vois, c'est quoi de la vraie musique pour toi?
Ouf! Moi, j'avoue, vraie musique, c'est quelque chose qui me procure des émotions. Mais comme c'est très personnel, c'est difficile à partager avec les autres.
C'est subjectif.
Complètement.
Quand un enfant de 15 ans vient te dire que pour moi, la vraie musique, c'est ce qui me touche, c'est Wajden, pourquoi tu la juges?
J'avoue, c'est Wajden. Pourquoi tu la juges? Parce que ça la touche.
Ça la touche, elle. Ce que Wajden lui parle, les mélodies, ça lui parle.
Ah oui, ramène j'aime beaucoup
ça. Ça, je comprends, parce qu'on a tous connu l'époque où on était jeunes, où il y avait plein de boys band et de girls band.
C'est ça, mais tu vibrais.
Plein de Spice Girls, et c'était génial.
Mais alors,
c'est ça la musique. Et c'est pour ça que je dis, c'est le peuple qui choisit, en fait. C'est pas à toi de dire qu'est-ce qui est de la bonne ou de la mauvaise musique. C'est la musique qui arrive à toucher un cœur.
Moi, en plus, ça change des zones, ça change des trucs. Tu sais, quand on parlait l'autre jour, tu m'as donné une très très belle anecdote, je trouve, que tu m'as dit de ta sœur, sur pourquoi la musique est l'une des choses les plus importantes. Je pense que c'est très bien que tu partages avec les gens.
Oui, effectivement. Ma sœur m'expliquait que dans l'univers, sur Terre, on retrouvait trois choses dans chaque civilisation. Toutes les civilisations avaient une notion de la religion. Tous, on s'en parle de Dieu, d'une énergie, de quelque chose. Il n'y a pas une civilisation qui, à un moment, s'est dit non, on s'est fait tout seul, on n'a besoin de personne. Tous se disent non, il y a un truc plus fort que nous, il y a quelque chose qui se passe.
Religion, un.
Deuxième chose, ils ont tous le sens de la famille. Donc, ce n'est pas forcément matriarcal, ce n'est pas forcément patriarcal.
Mais il y a une notion de comment on gère la famille.
Il y a un clan, la famille, c'est quelque chose de sacré dans tous les peuples.
Dans toutes les civilisations.
Et ça, même. C'est important. Et la troisième chose, tous les peuples ont une forme de musique, une forme d'art. Ça n'existe pas un peuple qui n'a pas sa musique.
Qui n'a pas son art, qui n'a pas sa façon d'exprimer.
D'exprimer, que ce soit un art plastique, que ce soit... Ce sont les trois choses qui nous empêchent d'être fous, en fait.
Ouh. Tu vois ça? C'est pas beau, ça? Et du coup, ces trois points, ça explique aussi pourquoi, d'une civilisation à l'autre, tu peux pas dire telle musique est bien, telle musique est nulle. Mm-hmm. Tu peux pas dire... C'est comme dire la religion est nulle.
Mais c'est quand même un terrain glissant, en fait, parce que, bon, globalement, tu dépends des tendances. Les tendances, il faut savoir les interpréter. Après, de dire, bah, OK, donc c'est les... Je dis une bêtise, hein. Mais c'est les femmes sur tel créneau, de tel âge, tel truc, qui fonctionnent en hexagone. Parce que les jeunes femmes qui ont entre 12 ou 10 et 18 ans, c'est ce qu'elles vont écouter, en fait. Parce qu'elles ont l'impression que c'est une musique qui leur parle, qui s'adresse à elles, qui comprend leurs problématiques. Donc, il y a quand même un aspect du marché, mais en même temps, vous n'avez aucune donnée palpable.
Tout à fait.
Pour vous dire, ben voilà, j'investis un temps sur temps parce que ta 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 ta, c'est aussi beaucoup à
non, c'est sûr.
À l'instant.
Complètement, l'instinct et la conviction.
Conviction et puis l'analyse psychologique ou quoi de la personne sur laquelle on va miser de l'argent. Aussi. On ne va pas sous-estimer quand même. Moi, je pense que on se dit, je ne sais pas combien, je ne sais pas du tout c'est dans quel zoo. Hein. Quand on prend un artiste...
Combien on met sur un artiste en moyenne, toi, tu dirais?
Alors, en moyenne...
avoir un minimum de traction. On va juste parler
c'est ça, la traction.
On va même pas parler d'argent, de trucs, mais juste de la traction.
En général, les producteurs avec qui je travaille, tant qu'ils n'ont pas mis 50 000 euros sur un artiste, ils n'ont pas encore mis d'argent.
Sérieux? C'est le minimum, tu dirais?
C'est-à-dire que le temps qu'il y ait quelque chose qui se fasse, ils ont tous déjà dépensé minimum 50 000.
Donc tout le monde n'est pas producteur
nous,
comme
on
ça.
On se plaint de monter des entreprises, de mettre un 10, 20 000 en démarrage.
Je te jure.
Mais non, c'est
pas un business facile.
Non, vraiment pas un business facile. Hein.
Et le problème pour eux, c'est que quand tu mets cet argent-là, il faut savoir que t'as une femme, t'as des enfants, on part en vacances. Non, tu vois, le petit qui est là-bas, j'ai mis de l'argent pour son clip, pour son truc.
Oh, j'avoue, en plus, ça paraît futile.
J'ai pas de vacances parce qu'il y a ce gars-là, mais il faut que tu rates bien, il faut que tu me fasses gagner de l'argent vite. Et le petit, les jeunes stars, il veut être beau alors qu'il ne ramène pas d'argent. Donc, il y a aussi cette notion de tu investis sur une personne, en fait. Tu paries sur une personne qui peut à tout moment péter un câble, te lâcher.
Tu parles comme un investisseur de start-up.
Mais oui.
Il parle comme ça, lui aussi.
Sauf que lui, la difficulté, c'est que la donnée...
Ouais, la donnée.
C'est ça, le truc, c'est que tu t'appuies sur ton expérience à toi, sur... ton instinct
Je sais pas, par exemple, tu regardes les nombres de followers de quelqu'un, c'est un indicateur pour toi de si la personne, non?
Là, vraiment, le premier indicateur pour moi, c'est la mentalité de l'artiste.
Plus que son nombre d'écoutes sur Spotify, son nombre de YouTube. Un gars qui a plein de vidéos YouTube, c'est pas plein de vues YouTube.
Un gars qui a plein de vidéos YouTube, c'est bien. Mais qu'est-ce qui me fait pas dire que demain il va arrêter?
Ah oui, parce que ça,
c'est la fameuse question, c'est que peu importe ce que tu prends, la personne peut arrêter du jour au lendemain.
Pas le forcer, quoi.
Donc voilà, c'est ça qu'il y a des contrats qui sont faits sur plusieurs années. Enfin, quand on sent qu'on a la poule aux œufs d'or, on dit ben, t'es chez nous pour faire 5 contrats. Et après ça, je crois que je dis ça parce que ça me fait penser, je crois que Alicia Keys avait un contrat de plusieurs albums à faire. Elle en est sortie là, dans son dernier album. Et je me dis, mais c'était énorme. Je crois qu'elle devait faire moins 5 ou 7 albums.
Depuis le temps, tu vois.
Donc, c'est pas pour une grosse maison, pour Sony Music. Enfin, voilà.
Il faut savoir que des fois, tu signes un artiste et il ne ramène pas d'argent avant 10 ans.
Pardon?
Ah oui, les artistes, l'ancienne génération, les sections d'assaut et tout, ça prend du temps. Avant d'être rentable,
c'est en 10 ans.
D'années. On parle d'années. Pas 10 ans pour eux, mais on parle de, je crois, 4-5 ans.
Mais c'est-à-dire que quand ils faisaient des concerts, les Bercy, etc., c'était pas rentable.
Non. Au moment, avant qu'ils arrivent au Bercy, ils faisaient d'abord des mixtapes, des trucs bizarres, des choses. Il y avait un mec qui payait, tu vois. À ce moment-là, c'est pas rentable. Mais il faut faire les clips, il faut faire les.
Le Dawala, ouais, il donnait de l'argent sur tout ça. Parce que tu disais même, je pense que sur ces choses-là, en plus, c'est pas forcément tout de suite. Enfin, même quand ça marche, c'est pas forcément la musique qui rapporte le plus.
Non, c'est, des fois, tu crées une économie, c'est peut-être les t-shirts qui vont te ramener le plus.
Ouais, tu m'as dit ça, que sur des cas comme Watibé, ça peut être même plus de cas.
Mais je pense que c'est même global au milieu artistique, parce que par exemple, moi qui travaille dans le secteur de la mode et du luxe, pendant des années, on va dire avant les années 2010, tout ça, vraiment avant, donc tu as des grandes maisons, je ne sais pas trop si c'est une marque, etc., mais elles te font des défilés haute couture, la haute couture leur apporte zéro.
Zéro, c'est juste pour l'image.
C'est pour l'image. Le prêt-à-porter, un peu, mais ce qui leur apportait, c'était le parfum emblématique de la maison.
J'adore. Et le truc en plus qui est vraiment reproductible au possible.
Oui. Et les cosmétiques maintenant, parce que c'est vraiment... Voilà, mais
globalement... Ah, donc c'est là où ils font du profit.
C'est là où ils font du profit, c'est sur les cosmétiques, la maroquinerie. Mais c'est principalement les cosmétiques parfums. Et il y a beaucoup de marques qui vivent sur le fait des ventes qu'ils font sur la partie cosmétique et parfums et maroquinerie.
Ben, chez producteurs, on va dire que notre... ou du podium qui ramène pas d'argent mais qui permet de développer le reste du business, c'est de faire des clips.
Combien le clip ramène pas l'argent alors que c'est ça qui est là où il y a le plus de coûts.
Non, c'est un élément
de...
Le clip, c'est le plus de coûts.
Oui, mais c'est un support de communication avec un objectif de visibilité.
Comme les défilés.
Comme les défilés, exactement. Et c'est vrai qu'on confond un peu beaucoup de choses aussi en communication entre visibilité... notoriété et génération de chiffre d'affaires. C'est trois choses différentes.
Complètement. Et là, c'est un très bel exemple. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, tu dirais visibilité, c'est donc...
C'est le démarrage.
Les défilés, les clips, c'est la visibilité.
C'est ça.
Tu me disais que c'est pas toutes les chaînes en plus où tu gagnes de l'argent parce que ton clip est sur la chaîne.
Ah oui. C'est encore un autre débat.
C'est un autre débat encore.
Déjà, quand ton clip arrive sur une télé, déjà, t'es super content.
Oui.
Ah ouais?
Parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 3000 clips par jour sur YouTube.
3000 clips par jour sur YouTube.
Il faut savoir qu'en télé, en général, sur les chaînes musicales, c'est en moyenne...
C'est une playlist de...
25 titres.
Ouais.
Seulement ?
Oui.
Qui tournent en boucle ?
Oui. Encore, c'est beaucoup, je pense qu'à une époque, c'était moins que ça.
Et donc, en gros, on va dire qu'il passe 40 clips différents par jour. Vraiment, là, je suis vraiment super optimiste. Donc, 40 clips
seulement sur une
par jour, non, différents, parce qu'ils vont te mettre 2-3 fois le même.
Oui, c'est vrai que t'as un moment, t'as l'impression qu'ils te harcèlent. Moi, quand je regarde avec ma mère, notamment Trace, je ne citais personne, mais tranquille, ma mère, quand on regarde, des fois, on a l'impression que c'est du matraquage. Il y a des sons. En fait, tu peux faire, ouais, quand je vais déjeuner chez elle, sur le déjeuner, il y a un son qui passe 3 fois.
C'est ça. Et donc, ces sons-là sont sur la playlist. Ça veut dire qu'ils passent régulièrement. Donc, déjà.
Pourquoi ceux-là et pas. Enfin, je comprends pas. Pourquoi ceux-là, pas les autres direct, c'est...
Et c'est là que ça devient compliqué parce que. Alors, Trace, ils doivent sortir. Ils font des clips. Ok, ils doivent poster des clips sur leur chaîne. Mm-hmm. Gims vient de sortir un clip. Ah, on est Trace Africa, on est obligé de mettre Gims. Mm. C'est le minimum.
C'est le minimum syndical.
D'accord. On doit mettre Gims. Dajou a sorti aussi son titre.
Il faut mettre dedans quand même.
On peut pas mettre
son frérot, attends.
D'accord. Taïk. Ah, on peut pas, tu peux pas faire Trace Africa.
Mettre Taïk, par contre.
J'ai de mettre Taïk. D'accord, c'est déjà.
Ça t'aime bien. Là, j'ai senti un petit moment de kiffance. Là.
Oui, je vais pas mentir, il y a des chansons que j'aime bien.
Voilà, c'est bien.
Tu vois. Donc, déjà, quand on met les confirmés, tu vois, ils vont mettre Niska, ils vont mettre tous les mecs qui existent déjà. Donc, sur la liste de 20-24, il y en a déjà 18 qui sont obligés de mettre.
Oui. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les chaînes de clips. C'est qu'on te propose la même chose, alors que la musique est tellement vaste, surtout dans les années précédentes.
Le risque est important pour eux parce qu'ils font du revenu sur la pub. Il faut que ce soit sûr que tu sois là. S'ils te mettent des chansons qu'à un moment, t'aimes pas,
eh ben, tu t'en vas.
Tu t'en vas.
Et tu vas regarder sur YouTube.
Eux, ils ont un biz qui est assez simple. Hein,
sont les médias, aujourd'hui, leur pire ennemi, c'est YouTube. YouTube et Internet, quoi.
YouTube, c'est le clip que tu veux au moment que tu veux, autant de fois que tu veux.
Et puis l'algorithme propose des trucs sympas, des fois.
Oui.
Très souvent.
C'est ce qui est d'ailleurs plus dangereux, c'est que la programmation, pour le coup, YouTube, je défie n'importe quelle télé d'avoir une programmation de découverte aussi élevée. Hein, parce qu'ils n'ont pas les datas que les autres ont. Eux, ils n'ont pas de data, pour le coup, tu regardes.
Exact.
Ils ont leur vieux audiométrie et audience qui est fait sur un échantillon de 1000 personnes, et puis c'est terminé. Hein.
C'est tout. Ils n'ont pas de feedback instantané, tandis que TikTok et YouTube peuvent ajuster le tir immédiatement.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que TikTok est encore plus...
Non, TikTok, c'est le feu.
Mais
pour ça.
C'est quelque chose qui... Je pense que au-delà de... Enfin, je pense que... Enfin, c'est une question qu'on devrait lui poser, je pense. C'est que tu as dû voir l'évolution du secteur de la musique.
Oui.
Et comment Internet a phagocyté énormément de choses.
Mm-hmm.
Et comment ça va être encore le cas dans les jours. Hein, parce que pour moi, ça se compte en jours.
En jour, en semaine à venir.
Où on va se retrouver à acheter une chanson de The Weeknd interprétée par Michael Jackson. Ou,
Avec l'IA, etc. Est-ce que, ouais. Avec l'intelligence artificielle, tu vas avoir bientôt ça. Ouais.
Là, comment on va faire en termes de tendance ? Très clairement, c'est...
C'est compliqué.
Moi, je sais que mon métier me donne déjà un peu mal à la tête quand je pense à l'intelligence artificielle, mais la musique ou...
Tu peux créer encore plus artificiellement avec les tendances, enfin avec les data que t'as. Tu dirais que c'est quelque chose qui te rassure, te fait plaisir, te fait peur.
Alors, pourquoi j'ai pas peur de l'intelligence artificielle ? Parce que, techniquement parlant, l'intelligence artificielle ne peut qu'interpréter, elle ne peut pas créer.
Oui.
Ce qu'elle va faire, c'est ajouter...
Mixer des choses qui existent déjà.
Et tu vois, l'algorithme ne sait pas quand est-ce qu'il faut rajouter un instrument en plus ou en moins. Il ne sait pas là, tu dois...
L'intelligence artificielle, tu lui donnes toute la base d'une plateforme de streaming musical qu'on écoute tous sur nos téléphones. Ça va l'enrichir, c'est-à-dire qu'elle s'enrichit, donc avec l'enrichissement, elle va pouvoir te faire des propositions. Enfin,
oui, elle va faire des propositions.
Mais qui ne seront pas forcément, comme dit l'humain, créatives. C'est-à-dire que, tu sais, il parlait d'originalité et d'authenticité.
Mm-hmm. Oui, c'est là où ça va se jouer, où effectivement,
en fait,
l'authenticité.
L'IA, authenticité, bon, c'est dead, déjà. Même l'originalité, il a raison. L'IA ne va pas pouvoir faire un truc que personne n'a fait. Par définition, si les données sont constantes, le contenu va être constant. Le principe de l'IA. Ben, en fait, ils vont. Ça peut tenter des combinaisons qui n'ont pas été tentées.
Exact.
Mais ce n'est pas ça qui rendra ça original, c'est ça que je veux dire. Ça va juste être
Et pour
différent.
Montrer l'histoire, c'est qu'il y a des chansons qui, tous les 10 ans, sont remixées et à chaque fois, ça a l'air d'être nouveau. Parce qu'à chaque fois, on les remet au goût du jour, on les remet d'une autre couleur.
C'est vrai.
Donc c'est la même chanson, mais remixée, remise d'une autre façon, ce n'est plus la même chanson.
Voilà, old school, tu vois, la tête qui tire, ça c'est un autre truc qui la titille fort.
Non, c'est-à-dire que justement, tout à l'heure, tu nous as donné l'exemple de... Être authentique ou être original, c'est pas la même chose.
Oui.
Mais c'est pas pour autant dire que tu ne fonctionnes pas.
Enfin, c'est deux choses différentes, effectivement.
Voilà, donc moi, c'est plutôt ça. C'est dans le sens où, OK, tu ne seras pas original, tu peux être authentique et quand même fonctionner. Donc, c'est pour ça, en soi, où je trouve que l'IA est... Mais l'IA pourra aussi peut-être vous rendre service parce qu'il y aura peut-être du prédictif qui va pouvoir être possible aujourd'hui.
Oui, il y aura une base, quoi.
Pour les tendances, etc., pour dire, voilà, demain, je lance quel artiste. Voilà ce que quel budget, voilà, je te mets, voilà, les artistes, ils ont, voici leur communauté, voici ce qu'ils font. Eh, vas-y, dis-moi.
Alors, pour vous expliquer, au moment où Jul était numéro 1, tout le monde s'est dit, on doit rapper comme Jul maintenant. En face, au même moment, est sorti Stromae, avec Papa Oté. Rien à voir.
Rien à voir. Très qualitatif.
Aucune intelligence artificielle n'aurait pu
imaginer les deux.
Imaginez ça à ce moment-là. La tendance aurait dit, mais il faut qu'on parte dans ce sens-là. Bang. Non. Et c'est là que je dis que la créativité a plus que jamais son rôle et son importance. Parce que justement, l'intelligence artificielle, beaucoup de potentiel. C'est, tant que la technologie reste au service de l'homme, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on croit que l'intelligence artificielle va surplomber l'homme, ce n'est pas que je doute, mais elle aura des limites parce qu'elle a besoin d'une matière première.
D'être alimentée.
Pour s'alimenter, tant qu'elle ne l'a pas. Donc là, comme il y a beaucoup de données, elle fait un bond waouh, extraordinaire d'un coup. Mais vous avez vu, il y a plusieurs fois, des fois même dans les dessins, l'IA, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu un moment, c'était tendance de faire l'IA nous dessiner.
Oui, c'est ça.
Mais au bout d'un moment, que tout le monde se ressemblait.
Oui.
Le
style faisait que les gens...
Tout le monde se sentait... Ouais, ça, c'est fait par. C'est fait par. Au bout d'un moment, on n'arrivait plus à différencier.
C'est vrai.
Donc, c'est pour ça, c'est ça la limite, en fait. C'est la différence entre un Picasso qui va te... et une intelligence artificielle. Tu peux voir des œuvres différentes de Picasso. Si tu ne sais pas que c'est du Picasso, des fois, c'est Picasso qui a fait ça aussi. Mais l'ENSA, tu sais toujours quand c'est l'ENSA.
Ouais, c'est vrai. Je reconnais l'ENSA, d'ailleurs, il faut que je le fasse, d'ailleurs, ça me rappelle. J'ai oublié que j'allais le faire. Maintenant que tout le monde a fini, c'est là où moi je vais venir en bon retardataire me mettre dedans. Mais il nous manque le troisième. Donc tu nous as dit, premier critère pour choisir un artiste, tendance.
Oui.
Deuxième critère, authenticité, originalité, capacité à incarner la tendance.
Exactement.
Troisième élément, qu'est-ce qui te manque pour choisir un artiste une fois que tu as ces deux-là?
La partie psy de l'esprit de la personne, non?
Alors, on a dit la partie mentale, on met ça dans le côté authenticité.
Ouais,
parce
toujours.
Que des fois, j'ai des gens, des rappeurs, ils veulent me parler de la rue, mais t'as vécu dans le 16e. Calme-toi, parle-moi des cornflakes dans ce cas-là.
Tu peux aussi faire un truc intéressant avec les gens qui ont vécu dans le cornflakes.
Je veux dire, mais viens pas te donner un rôle de ce que tu n'es pas.
C'est vrai.
Tu vois, c'est comme ça. J'avais toujours une artiste blanche qui me dit, moi, j'ai envie de chanter pour les Noirs. C'est-à-dire, tu veux dire quoi? Je veux dire Black Lives Matter dans mes chansons. J'ai envie de dire que moi aussi, je représente, je suis avec vous, je me bats avec vous.
Et elle est venue te voir comme ça, là.
Oui.
Elle voulait faire Formation de Beyoncé, mais en étant blanche, quoi.
Elle m'a dit, c'est mon combat. Moi, vous êtes mon combat. J'ai envie de chanter sur Malcolm X.
Vous êtes mon combat. Ah, la punchline est magnifique. Oui, ah, exceptionnel.
J'ai envie de chanter sur Malcolm X, sur Martin Luther King. Ce sont mes références.
C'est bon.
Tu vois, c'est important pour moi de chanter
ça. Ça me dit quelque chose.
Donc, je ne donne pas de nom.
Tu as remarqué qu'il a dit qu'il ne donne pas de nom.
Nous, on saura, nous.
Nous, on saura.
Elle disait que comme moi, je vous aime, j'ai l'ordre de vous appeler nigger, de dire nigro, tu vois, frère. Moi, je peux le dire parce que je suis dans le cœur avec vous.
Donc, toi, tu as dit non, merci, au revoir. C'était sympa.
J'ai dit que je ne faisais pas d'artiste transgenre. Tu vois.
Transgenre,
oui. C'est-à-dire que tu as un corps blanc, mais en fait, tu te sens noir.
Techniquement
parlant,
c'est étrange. Non, mais j'aime beaucoup.
C'est un trans,
parce que bon, vu qu'il n'y a pas de terme pour la race, scientifiquement, c'est un transrace, si tu veux. Si tu veux éviter transgenre. Mais pour être très précis, c'est un transracial.
Oui, tu vois, donc. Techniquement parlant, ça marche, mais j'ai dit non, c'était pas la politique de la maison.
De la maison.
Non, c'est pas la politique de la maison, tu vois.
Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu décris là. Et du coup, c'est quoi le troisième truc? Parce qu'il faut vraiment qu'on y arrive au fond. Mmh. Je veux vraiment entendre le troisième truc.
Alors, le troisième élément super important pour moi, c'est ma propre interprétation de la chose. D'accord. C'est-à-dire que je n'arrive pas à faire une musique que je déteste, que je n'aime pas. Même si elle est tendance, que le mec est authentique, si je n'aime pas, j'arriverai pas à dire à l'artiste, là c'est bon, là c'est pas bon, là t'es dans la bonne tendance, là t'es dans la bonne chose, parce que je ne sens pas la chose.
Ah, parce que toi tu as besoin de pouvoir aussi les guider aussi derrière.
Et oui.
Donc tu aimes la musique d'aujourd'hui?
Ah, la tête qu'elle fait. Hey, c'est quoi ces grandes, grandes accusations? Ah, j'adorais dire la musique d'aujourd'hui, genre.
J'écoute de la musique d'aujourd'hui. Hein. Le problème, c'est que
tu ne peux pas ne pas aimer ce qui se fait et vouloir proposer quelque chose de différent.
Non, mais c'est sûr, t'es
obligé. C'est comme si t'es dans la mode, mais t'aimes pas les vêtements.
Compliqué.
Tu vois, t'aimes pas les tendances, t'aimes pas les vêtements d'aujourd'hui, t'aimes rien. Tu peux pas être dans la mode et ne rien aimer. Tu as des préférences, tu as des courants, tu as des tendances. Mais tu peux pas dire, j'aime pas les vêtements. Moi, je préfère l'époque romaine quand on s'habille avec des...
avec des...
pas.
Avec des toges romaines.
T'es obligé d'avoir une affinité avec ceux qui suivent. Si tu n'as aucune affinité, tu pourras pas vendre ta cam, tu pourras pas comprendre.
Savoir,
tu vois. Donc, oui, je suis obligé d'avoir cette relation avec, avec la musique qui est faite. Il y a des artistes qui viennent me voir, je leur dis... Ce que vous faites, c'est très bien, mais moi, je ne pourrais pas t'aider au niveau artistique, en fait. Mmh. Je pourrais t'aider sur la promo, sur le marketing, sur d'autres choses.
Ah, donc des fois, tu prends des partenaires. Comme tu m'as dit, des fois, tu bosses juste sur des chansons avec des artistes.
Oui, des fois, je lui dis, écoute, moi, j'ai une chanson sur ton album, j'ai envie qu'on fasse ça pour toi, c'est juste ça.
Ouais, c'est comme ça que tu me dis, tu as fait des chansons avec Aya là-dessus, du coup, sur son album.
Différentes personnes, voilà, parce que cette couleur, ou à un moment donné, je sens qu'il y a un truc à faire. Mmh. Mais il y a des artistes, je ne peux pas travailler avec eux, parce qu'ils ne sont pas dans... l'univers musical que j'ai envie de créer pour eux.
Donc en fait, la dernière chose, c'est que c'est ton analyse personnelle et ton instinct et tout qui
ouais, ton adhésion. Ouais.
Pour faire simple, j'ai l'extérieur, donc l'univers, l'environnement dans lequel on est. J'ai l'autre, l'artiste, et le troisième, c'est moi.
Toi, ça colle.
Et tout à l'heure, dans les marques que Moulaya a listées, effectivement, il y avait des marques... Enfin, il y avait des
très belles marques de luxe.
Mais on avait aussi des marques de luxe, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire
qu'est-ce que tu fais avec eux?
En fait, les marques de luxe, des fois, elles viennent et disent « Bon, on veut faire une campagne. On veut faire une campagne publicitaire, on veut communiquer, on veut faire un challenge. Est-ce que tu peux nous faire une chanson ? On a
un TikTok
produit.
Challenge ?
Ouais, des fois, on leur fait des challenges. Ils disent « On a un nouveau produit, quel type de musique on pourrait mettre dessus pour inciter les gens à faire un challenge, à se maquiller dessus ou à faire des produits comme ça. »
Donc,
on leur fait une musique en fonction de la couleur du produit qu'ils aimeraient vendre ou sur lequel ils veulent communiquer.
Ou la cible, des fois, aussi ou...
Ah oui, parce que... Ils peuvent venir nous dire, ben nous, on a envie de toucher les filles de 13-18 ans, qu'est-ce qu'elles aimeraient bien, comme style musical, voilà.
Okay. C'est intéressant, et toi, du coup, t'as jamais ce truc, du coup, parce que c'est dommage, tu fais tellement de trucs. Mm-hmm. Hyper intéressant, t'as jamais des fois envie de mettre ton nom au début, genre Wence Media, genre un truc. Non, mais je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc, il y a certains producteurs qui, au bout d'un moment...
Bah, la légitimité qu'on sache
que c'est... Toi, t'as jamais ce truc-là, à un moment?
En fait, moi, j'étais un petit peu... Avant, j'étais très, très naïf.
Ah, OK.
Ouais. C'est-à-dire que moi, je me disais, le bon travail parle pour toi. T'as pas besoin de parler.
C'est vrai.
Tu vois?
C'est ce qu'on dit en théorie.
C'est ce que je me disais. Mais en théorie, c'est faux.
Dans la musique, c'est pas le cas ou tu dirais que c'est partout?
Dans le business, dans tout, c'est pas le cas. Oh. Ça, c'est une phrase qu'on dit pour t'éliminer. Si tu crois ça, c'est que tu t'es fait attraper.
Ah, intéressant.
Ah oui, c'est faux. Le bon travail parle pour toi, c'est complètement faux.
Mon Dieu, c'est un mythe qui s'écroule.
Non, mais tranquille. Mais c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, oui. Donc toi, maintenant, ça fait partie intégrante du bon travail, qu'on sache que c'est toi.
Donc maintenant, je communique plus. Là, je parle en termes de branding. Je communique plus sur les activités que nous faisons, les choses que nous faisons. Alors qu'avant, je ne communiquais pas du tout dessus. Mais je me suis rendu compte un jour, comment je me suis rendu compte de cela. Un jour, un mec vient me voir et dit « Mathieu, j'ai rencontré un gars extraordinaire. » J'ai dit « Ah ouais ? Ouais, il a fait du droit français-anglo-américain. Mmh. »« Ah ouais, dans quelle fac ? C'est peut-être la mienne. Mmh. » Il me dit « Dans la même fac que moi. » Je dis « Waouh, c'est cool. » Non, ça ne me dit rien. Il a fait quoi d'autre ? Mais le mec, il a également été aux États-Unis. « Waouh, comme moi. Hein. » Oh, et le mec, il a travaillé chez Warner. « Waouh, comme moi. » Et le mec, il a travaillé sur les mêmes artistes que moi. Ah, je dis « Là, c'est impossible que je ne connaisse pas. » Tous les artistes, là. Il m'a dit « Ouais. » J'ai dit « Viens, on va voir le mec. » Je viens, je m'assois, je vois un gars que j'ai croisé il y a 2 ans devant moi, et il me dit « Ah, grand frère, tu te rappelles, t'étais venu, tu m'as parlé de ton histoire et tout, j'ai trouvé ton histoire tellement extraordinaire que je l'ai prise pour moi et que maintenant je fais croire que je suis toi. »
Non, mais c'est pas possible, t'es pas vrai.
C'est pas possible,
ça. Non, Mathieu,
attention.
Mathieu, tu racontes des trucs incroyables, Seigneur.
Et le gars faisait plus d'argent que moi avec mon CV.
C'est pas possible.
À partir de ce moment-là, je dis « Merci pour la leçon, mon ami. »
Comment tu faisais plus d'argent que toi avec ton
CV? Il allait blaguer les gens, il disait « Ouais, j'ai fait ça, j'étais aux États-Unis, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Genre « Ah, tu peux t'occuper de mon projet, tu peux tiens, billet, bang, bang, bang. » Le gars était mieux payé que moi-même avec mon propre CV.
Qu'il payait les artistes, le payait plus.
Les artistes, les producteurs, les gens qui venaient le voir.
Ça, c'est un autre problème. Ouais. Comment ça marche dans votre monde pour savoir à qui se fier, avec qui travailler?
Ah ben, c'est pour ça que maintenant, je communique. Avant, je communiquais pas, je me disais « Non, c'est bon. » Avant, je me disais « Tu vois, la lumière ne fait pas de bruit. » C'est-à-dire quand la lumière, elle vient, elle ne fait pas de bruit.
Tu vois, quand toujours très poétique, la lumière ne fait pas de bruit.
Et oui, malheureusement, on est dans un monde d'aveugles. Donc quand tu brilles...
Oh là là,
mon ami.
Shots fired.
Quand tu brilles dans un monde d'aveugles...
Je t'ai dit, il est fantastique, purée. Il est fantastique, que des punchlines.
Et puis il te les sort genre ni vu ni connu, t'avais déjà même oublié, tu vois.
Non, mais ça fait mal.
Donc il faut faire du bruit parce que dans un manque d'aveugle, et la lumière ne se voit pas.
Ah oui, la lumière ne fait pas de bruit.
Franchement, bravo.
Non, mais c'est. Vous êtes les mieux placés pour le savoir. Vous croisez des talents exceptionnels tous les jours, mais personne ne le sait.
C'est vrai.
Des gens, tu te dis, mais pourquoi ces personnes-là n'en est que là? Pourquoi elle n'est pas à ce niveau-là, à ce niveau-là? Et des gens qui ne sont pas très grands, mais qui ont une grande bouche.
Ouais.
Et sur les réseaux, ils te font des belles photos,
c'est
des beaux trucs.
C'est l'histoire d'Instagram.
Et voilà, vous avez compris.
C'est une des parties de l'histoire d'Instagram, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, les influenceurs, c'est beau, mais...
Ouais, non, je sais qu'en plus, toi, tu parles bien de TikTok en termes de ce que ça peut permettre pour la musique. Mais Instagram a aussi des effets négatifs. Tu me parlais de cas où tu t'es retrouvé avec des artistes qui veulent se changer pour être Instagrammables, c'est ça, tu disais?
Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des tendances sur Instagram. Et ben, j'ai des artistes qui veulent se gonfler les lèvres, qui veulent se faire ci, qui veulent se faire ça, parce que c'est tendance.
Et toi, tu dis quoi? Toi qui es monsieur tendance et authenticité, tu leur dis, tu leur dis quoi en fait dans ces cas-là? Parce que j'imagine qu'eux, ils viennent en pensant que toi, tu vas même financer l'opération. Ou bien
ah oui, 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 certaines fois, ils me disent, mais t'es producteur, tu sais bien que si je fais passer ça d'un C à D, on va avoir plus de public, plus de personnes qui vont suivre.
Non.
Tu vois, certaines veulent refaire leurs fesses, refaire... J'ai dit, comme tu es là, t'es très bien, va faire du sport, ça suffit amplement. Ah, quand je leur dis va faire du sport, d'un coup, elles sont vexées.
Sérieux?
Ah oui, elles sont vexées, non, mais...
Mais pourquoi? Alors, pour elles, c'est moins vexant de se faire charcuter que de devoir faire l'effort physique.
C'est pas la même chose, vous l'avez.
Ah bon? En quoi?
Si tu fais une opération de chirurgie esthétique, c'est que tu veux mettre... Enfin, là, en l'occurrence, les fesses, les seins, etc., c'est que tu veux plus... Mais si tu dis à la personne de faire du sport, c'est que tu te sens qu'elle a trop de poids, qu'elle doit perdre en fait.
Ah bon? Moi je pense que j'aurais dit c'est
parce
mieux.
Parce que c'est pas en faisant du sport que ni ta bouche va grossir, ni tes seins vont gonfler ou quoi que ce soit.
Oui, parce que pour moi c'est ça,
donc
le sport te permet
sport,
de...
C'est pour sécher, fitter...
C'est pour être mieux, voilà. C'est pas pour être plus. Ce que tu viens de dire c'est qu'en gros Instagram veut pousser les gens à être plus, et lui dit tu peux juste être mieux.
Et là, elle a raison, mais... parce que moi j'avais pas entendu qu'elle m'a dit ça. Moi j'ai cru, je voulais lui dire que tu es bien comme tu es. Mm-hmm. Mais elle s'est entendue insulter en fait.
Quoi?
Ah oui. Elle s'est entendue insulter. Parce que pour elle, elle était déjà parfaite, elle voulait être plus que parfaite.
Ah, elle voulait être plus, elle voulait pas être mieux.
Ouais, parce qu'elle était jamais. Ah. Il lui dit, t'as qu'à faire du sport, ça veut dire quoi? Je suis pas encore assez bien.
Tu vois, c'est une autre différence intéressante que j'avais jamais vue. Instagram pousse à faire plus, alors que, en fait, toi, tu pousserais les gens à faire mieux avec ce qu'ils ont.
Pour être le plus authentique possible.
Logique. Dans ta logique, c'est tout se tient.
C'est pour ça que.
Mais du coup, là, t'es un peu à contre-courant de la tendance, du coup.
Oui, c'est que la musique, ces derniers temps, nous a montré que... Enfin, voilà, les filles, elles ont toutes des plastiques.
Ouais, est-ce qu'il y a des producteurs qui le font, ça, qui, du coup, disent...
Oui, bien sûr.
Ah bon?
Ah oui. Ah, il y a des producteurs qui...
Oui, il y a toutes les artistes, surtout les femmes, parce que, bon, les hommes, c'est un non-sujet.
Attention, il y a des hommes qui, des fois, on les voit, ils font 102 kilos, ils reviennent soi-disant après la salle, ils font 70 kilos. La salle a un nom très spécial, hein, le Seigneur des Anneaux.
Ah, l'anneau gastrique.
Eh oui.
Le Seigneur des Anneaux,
C'est comme ça que ça se met. Donc.
Eh, tu m'ambiances. Il a dit le Seigneur des Anneaux. Tu sais, le précieux.
Le concept du précieux, c'est qu'il est invisible. Quand tu le mets,
personne ne te voit.
Personne ne le voit.
Exactement.
Donc,
j'aime la métaphore.
Là, on le met. Ouais,
personne ne sait. Ouais, ouais.
C'est
du sport. Ouais.
Ouais, il est revenu trois mois. Waouh.
Ou alors, au contraire, plus costaud. Ça va. C'est du sport, ça. Non, des fois, c'est pas que du sport. Ah oui, c'est des stéroïdes. Il y a les stéroïdes aussi, j'oublie.
Il y a les stéroïdes, et puis les hommes peuvent faire des tablettes de chocolat. Ça,
ah oui, il y a des gens, ils sont plus gonflés, mais ils poussent la même fonte. Hein. Ça n'a rien augmenté.
Rien augmenté, ouais, c'est la stéroïde. Putain, les stéroïdes. Non, mais écoute, du coup, toi, au jour d'aujourd'hui, okay, si là, je pense qu'on va devoir conclure, toi, au jour d'aujourd'hui, donc là, tu nous as expliqué comment un manager fait. Mais si t'es un artiste, toi, aujourd'hui, une artiste ou un jeune artiste vient te voir et te dit, OK, j'ai envie de réussir dans la musique, tu lui dirais quoi? Parce que moi j'ai une grande théorie sur comme quoi les artistes vont pas avoir beaucoup de travail avec des créateurs. Je dis souvent la première chose c'est de faire du volume. Il faut faire beaucoup de quantité. Toi, est-ce que tu as remarqué avec tes artistes que ceux qui ont le mieux fonctionné c'est ceux qui ont fait le plus de quantité de contenu ou de régularité de contenu? Est-ce que tu verrais ça comme étant une caractéristique ou non? Il y a des fois en fait des gens qui ont fait une chanson et ça suffit pour faire un carton.
Excuse-moi, je peux faire une parenthèse? Je voudrais citer l'exemple parce que ça m'ennuie beaucoup, parce que je le vois souvent, c'est que, enfin, encore aux États-Unis, c'est pas en France, mais les chanteuses afro-américaines sont toujours obligées d'être hyper sexualisées, alors que les chanteuses blanches n'ont pas besoin de le faire. Personne n'a demandé à Taylor Swift de refaire ses fesses, de refaire ses seins. Elle est très bien comme ça, tout le monde la trouve très bien. Mais quand je vois la Chloé Belleray qui a profité d'une campagne de com et de moyens énormes, de tout le temps un comportement, tout le temps un truc ou tout le temps c'est too much. Elle vend son album, je crois que ça n'a même pas fait 10-20 000 en promotion, alors qu'elle a une communauté, elle a des millions de followers sur internet, sur Instagram,
mais qui ne la suivent pas pour les bonnes raisons.
Et c'est là où je veux en venir, où on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, je vais juste dire, on verra ce que ça va donner, mais Janelle Monae qui sort un album là, qui sort bientôt, et qui, qui a une attitude complètement aux antipodes de tout ce qu'elle a fait avant. Alors que c'est, elle était vraiment positionnée comme une fille très créative, originale et authentique. Karl Lagerfeld était fan de cette fille, c'était une muse. Enfin, elle était. Mais effectivement, ça ne prenait pas. Même si ses albums sont de qualité, ça ne prenait pas. Et là, qui revient avec un style hyper sexualisé, comme si on était obligé de montrer ses seins, ses fesses, ses trucs, etc. Donc, je reviens là-dessus parce que ça vient par rapport à ta question. Enfin, c'est pour que tu aies ça en tête par rapport à la question que Moulay pose justement sur.
Parce qu'une artiste féminine doit se dénuder.
Alors, je passe jusque-là, mais.
Vendre du sexe.
Parce que, comme on parlait, comme les réseaux sociaux, ça compte.
En tout cas, les artistes noirs, je pense un peu plus. Malheureusement, moi, j'avais lu quelque part, c'était beaucoup aussi parce que leur public, malheureusement, consommait sur cette base-là. Taylor Swift, son public consomme moins sur la sexualité. Même si elle en parle beaucoup, ceci étant dit. Je sais pas, toi, tu dirais quoi à un jeune ou une jeune artiste aujourd'hui qui veut commencer ? Qu'est-ce qui serait le plus clé pour toi ? Pour arriver à être authentique, à trouver les tendances, toi, tu dirais quoi ?
Alors, je n'ai pas compris la question. La question, c'est qu'est-ce que je dis, une jeune artiste féminine ou un jeune artiste masculin ?
Ouais. Bon,
c'est pareil, c'est pas la même chose.
Ah, ah non, je dis pas la même chose d'un homme et une femme.
Intéressant.
Bah oui.
Ah oui, mais écoute, commençons avec les femmes. Vu que Vanessa a ramené le sujet sur la table, tu dirais quoi ?
Première question que je demande à une femme, c'est tu veux être connue ou tu veux qu'on t'aime pour ta musique ? Si tu veux être connue, tu peux aller faire Fest Story, tu peux faire Sextape, tu peux faire. T'as pas besoin de chanter en fait. Si tu veux juste de la gloire, juste être connu.
Ouais, tu peux faire de la télé-réalité. Voilà. Il y a 15 000 façons.
Il y a d'autres façons moins reloues que
la musique.
Que la musique, tu vois. Ça va te frustrer pour rien.
Sérieux ?
Si t'aimes pas, si tu veux juste être connu, avoir de la lumière, de la gloire, va faire autre chose. Si tu aimes la musique et que tu veux être connu pour ta musique, viens, on peut discuter. Mais c'est pour faire autre chose.
Mais du coup, tu seras peut-être pas célèbre, ce que t'as en train de dire.
Ah, mais la musique, c'est beaucoup plus aléatoire que.
C'est la célébrité.
Ah oui, tu peux être célèbre de différentes façons.
Oui, alors que la musique.
Alors que la musique, si tu veux être connu pour ta musique, tu seras connu que par rapport à ta musique, ça te fait un seul axe de communication.
Est-ce que tu dirais que dans ce cas-là, c'est difficile d'être riche en faisant de la musique au jour d'aujourd'hui ?
Oui.
C'est dur ?
Oui. Mais heureusement pour nous, l'objectif, c'est pas d'être riche de la musique, c'est d'être bien de la musique.
Ah, ça, c'est important, parce que je pense que beaucoup de gens, malheureusement, que moi je connais, pensent que la musique, c'est le chemin pour être le plus riche. C'est comme les athlètes. Les gens pensent que pour gagner le maximum, il faut être un athlète.
Ben, pour faire simple, dans la musique, l'industrie de la musique, par an, ça génère la même somme que Galerie Lafayette par semaine ou par mois.
Quoi ? Non, c'est pas possible. Reprends ça, s'il te plaît.
Le chiffre d'affaires des albums vendus, on va dire, que ce que la musique génère comme argent, c'est le même chiffre d'affaires que ce que fait un grand magasin en une semaine.
Sur l'année ?
Sur l'année.
Simla, si jamais tu dis ça à des gens qui. Les gens vont arrêter la musique derrière, ils vont dire bon, là, c'est que les passionnés qui vont rester.
Ah oui, c'est que les passionnés.
Mais pourquoi cette info n'est pas connue ? Parce que j'ai l'impression que les gens disent c'est un trillion dollars business. Ah, parce qu'ils prennent tout ce qu'il y a autour. Ils prennent les concerts, ils prennent.
C'est les concerts qui. Enfin, pour moi, personnellement, je pense que l'avenir et actuellement et tout, c'est des artistes, c'est de faire des concerts. Parce que, avec la musique en ligne, là.
Tous les artistes veulent faire des concerts, mais le Bercy n'est pas ouvert à tout le monde. L'Arena, c'est le top, top, top des artistes qui font vraiment de l'argent. Mais le reste, le bas de la pyramide.
J'en profite pour faire une parenthèse, je suis désolée, hein, mais je ne sais pas si vous l'avez regardé sur Netflix, la série qui raconte l'histoire de Spotify.
Non. Regardez-le.
Alors, c'est l'histoire du fondateur qui a créé
Daniel Ek, que
ouais,
je connais.
Ça dure 6-7 épisodes. C'est très intéressant. Et donc, ça relate toute l'histoire de Spotify. En fait, la fin, c'est un épisode de. C'est une projection de ce qui aurait pu se passer. En gros. Et en fait, la problématique qu'a soulevée, est-ce qu'à la base, il a quand même créé ça pour donner plus de visibilité aux artistes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont des plateformes qui poussent plus. Les artistes
existants
qui ont des grosses communautés, que les petits artistes qui, au final, ne sont plus aussi bien rémunérés pour leur musique. Donc, là où je veux en venir, c'est que quand tu parles de chiffres, Galerie Lafayette, etc., cette série-là en fait la conclusion, en fait.
Ouais, c'est qu'ils ne gagnent pas tant d'argent que ça, en fait, avec la musique. Tu ne gagnes pas énormément.
C'est pour ça que j'ai changé mon business model, en fait, autour de cela.
Ah bon ?
De travailler autrement que les artistes.
Pour travailler sur, du coup, l'influence, sur le marketing, le contenu, du coup.
Pour les aider à être rentable beaucoup plus rapidement que les autres artistes. Un artiste, en moyenne, pour être rentable, on va dire qu'il faut qu'il vende 50 000 albums, 100 000 albums. Maintenant, le business model que j'ai monté autour des artistes, à partir de 10 000 albums, 5 000 albums, ils sont rentables.
Ah, et du coup, c'est quoi? Du coup, c'est qu'ils font d'autres placements, d'autres choses, c'est ça?
On travaille autrement, exactement. On a optimisé tous les postes. On a pris 5000 mètres carrés et on a condensé tous les postes nécessaires au développement d'un artiste. Et c'est ça, notre nouvelle façon de travailler l'algorithme musical. Donc oui, c'est une réalité en fait. C'est comment vivre de la musique. C'est très compliqué.
C'est pas facile de vivre de la musique, tu dirais. Tu dirais que c'est, de ton expérience, c'est pas facile. Parce que les gens, je dirais de l'extérieur, je t'assure, bon, c'est comme les gens qui sont dans le foot, ils me disent souvent, le sport, c'est pas facile. Alors que les gens ont l'impression, comme dit la mère de Caï pour la citer, parce qu'elle était une étude dans le podcast, elle disait qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus.
C'est ça.
Donc, c'est ça. C'est pareil... sur la musique, t'as rien de me dire, du coup. Et donc, pour une jeune fille, tu dirais, si elle dit, OK, je veux vraiment, j'aime la musique, je veux faire de la musique et je veux vivre de la musique, toi, tu dirais comment elle doit s'y prendre? Quels sont les axes clés pour toi?
Alors, déjà, il faut savoir que quand tu dis que je vais réussir de la musique, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint.
Donc, ah, intéressant.
Donc, il faut être conscient que tu ne vas pas percer dans 6 mois, c'est un an, temps. 2 ans, 3 ans.
Donc, tu dirais combien de temps? 5, 10 ans?
Ça peut être 2 jours comme 20 ans, en vrai.
Non, lui, il dit que c'est un marathon, donc il dit que c'est pas 2 jours.
C'est rarement 2 jours. Oui. C'est rarement 2 jours. Je veux dire, par exemple, vous voyez, en France, on a une émission qui s'appelle The Voice, Star Academy. Ça fait combien de stars, tout ça?
Pas tant que ça, parce qu'il y en a que...
Je pense qu'aujourd'hui, ces émissions-là sont devenues des divertissements pour écouter de la musique, mais ne sont pas une écurie d'artistes à succès, en fait. Et je trouve dommage parce qu'il
y en a beaucoup
que,
qui, après, ouais, font rien.
À la limite...
Oui, même les gagnants.
Même les gagnants, à la limite, je vais encore faire ma vieille.
Bien sûr, la vieille.
Je préfère encore les émissions de Jean-Pierre Foucault, les artistes passaient les uns derrière les autres et chantaient leurs chansons à succès.
Taratata.
Ou Taratata, enfin voilà. Moi, j'aime Taratata, MTV Unplugged, les AOL Sessions.
C'est étrangement toutes les choses qui ne se font plus.
Tiny Desk.
Ah, ça ne se fait plus?
Si, c'est remplacé par, tout ça est remplacé par Tiny Desk.
Non, là maintenant, on est sur YouTube.
YouTube, oui, exactement.
Mais en télé, ça ne faisait pas d'audimat suffisant. C'est pour ça. Si ça, plus quelque chose marche, plus on le met à la télé. Si on le retire de la télé, c'est qu'il n'y a pas d'audimat, il n'y a pas le public.
Ça a été remplacé par les émissions type The Voice, etc., où on fait passer les artistes entre deux, où on donne un peu visibilité à des artistes connus, mais entre-temps, il y a le concours que les gens aiment regarder parce qu'ils trouvent ça passionnant.
Parce que toi, tu n'es plus la cible, comme tu viens de comprendre.
Je ne suis plus la cible. Je comprends.
Mais quand on regarde The Voice, les gens, ils aiment les chanteurs, les gens qui chantent dedans, ou ils aiment le côté Koh-Lanta, il ne va rester plus qu'un?
Ils aiment ça. Ils aiment, la compétition.
Ils aiment la compétition comparée qui est meilleure.
C'est les réalités.
C'est pas la musique qu'ils sont en train d'apprécier. Ils sont en train de voir la tête de qui va tomber ce soir. C'est du sang qu'ils demandent.
Or, c'est pas du sang. On appelle ça du divertissement.
Excuse-moi. C'est du sang.
C'est comme l'émission que je trouve très drôle. J'oublie le nom. Les gens sont déguisés, ils chantent.
Masked Singer.
C'est la même chose.
C'est du divertissement. Oui, c'est du divertissement.
Donnez-nous du pain et des jeux.
Voilà.
Ouais, la Rome ancienne, là, on est de retour. Les gladiateurs, tu vois.
C'est des gladiateurs.
C'est des gladiateurs étant modernes.
Oui,
c'est ça.
Alors, envoyez un si vous voulez qu'il meure.
Pousse si vers le bas.
Reste,
exactement.
C'est tout, on envoie ça par texto maintenant. Mais ça reste.
Ça reste des gladiateurs. Non,
mais c'est pas la musique que les gens sont en train d'apprécier.
J'ai senti la métaphore venir cette fois.
Je l'ai senti.
Elle était évidente, celle-là.
C'est même plus une métaphore, c'est une réalité qui existe depuis des années.
Elle était grosse, celle-là. Et on peut pas la louper. Mais du coup, tu dirais donc marathon. Parce que moi, par exemple, effectivement, même. Mon ex-femme était artiste, et effectivement, et l'une des premières choses que moi je lui avais dit, j'ai dit, mais statistiquement, quand je regarde, je ne connais pas le métier, je ne connais aucun artiste qui a percé en moins de 5 ans. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a regardé comme des modèles, même des indépendants, tu sais, tu parles de gens qui ont fait 10 ans avec une musique par semaine. À un moment, je lui ai dit, regarde les gens que tu regardes aujourd'hui, tu vois leur rythme de production aujourd'hui, ce n'est pas le rythme de production qu'ils ont eu au départ. Quand tu dis c'est un marathon, les gens ne se rendent pas compte de la vitesse à laquelle on court pendant un marathon. On ne marche pas pendant un marathon. Donc il y a un rythme aussi. Je pense quand tu dis que ça dure longtemps, toi tu dirais il faut compter combien d'années en moyenne?
Alors on dit que la musique c'est un sport de riche. Parce que tu sais quoi, tu vas décaisser, mais c'est pas quand est-ce que ça va revenir.
Ah, donc il faut être riche pour faire de la musique, tu dirais?
Ah, donc quand t'es pas riche, il faut de la patience. Et les artistes, et la patience, c'est compliqué.
Ça va pas trop longtemps.
Tu vois, parce que l'artiste va dire ok, moi il n'y a pas de problème, je vais sortir beaucoup de titres, mais il faut que je fasse un clip chaque semaine aussi.
Et surtout, c'est qu'après, une fois que tu es arrivé en haut de la montagne, il faut pouvoir y rester.
Ça, c'est un autre combat.
Et le combat de... Enfin, moi, chaque fois que je vois un artiste qui dit « je fais une pause pour X raisons » et qui veut revenir après, à chaque fois, deux cas sur trois, c'est
dur. Même Stromae que tu as cité, le retour a été très difficile et poussif. Et là, il souffre.
Le monde ne t'attend pas dans la musique.
Oui.
Ça n'existe pas, Fanta qui dit j'ai arrêté de faire du Fanta pendant un an, je vais faire une pause, je reviens plus tard. Sur tous les marchés, il faut être agressif, il faut que tu sois présent.
Ouais, genre Coca, oui, parce que là, on est dans le monde de l'attention. Oui.
Mais Jules, c'est comme ça, tous les 6 mois, il sort quelque chose.
Oui, il lâche rien.
C'est pour ça que ça fait des inclinés là, tous les 6 mois. Nino, ils enchaînent, les mecs. Ils ont pas le temps de dire je fais une pause. Mon ami, pendant que le vent est dans mon sens, laisse-moi relancer les dés.
Donc tu dirais que même en disant quelqu'un d'être patient sur le long terme, on est d'accord que toi tu dirais il y a un rythme. Quel est le rythme minimum que tu donnerais à un artiste aujourd'hui en termes de créativité, en termes de mettre quelque chose sur le marché? Parce que j'ai peur que beaucoup d'artistes, en tout cas moi que j'ai croisé, ils font beaucoup de choses qu'ils ne postent jamais, qu'ils ne publient jamais. Mm-hmm. Ils créent énormément, mais ils ne vendent pas.
Alors là, il y a deux choses à prendre en considération. Mm-hmm. Un artiste souvent se considère aussi impactant que son dernier flop.
Pardon? C'est quoi cette... Que son dernier flop, sérieux?
C'est-à-dire que quand il va sortir un titre et qu'il va voir qu'il a fait 100 vues, il va dire je suis un artiste nul parce que j'ai fait 100 vues.
Donc, c'est ça qui le définit.
Donc la fois d'après, il dit je veux pas sortir parce que je me dis oh, regarde, il sort des trucs, il fait pas beaucoup de vues, mm-hmm. il n'y a pas beaucoup de buzz, donc il est flingué, donc il est nul.
C'est pas le tube qui te définit?
Non.
Eux, avant que ça soit un tube, il faut déjà que...
Donc, quand on sort 10-15 et qu'il n'y a pas d'impact, et ben autour de toi, on commence à dire...
Laisse tomber, mon ami.
Ah, c'est chaud. Ah, on te regarde avec les yeux, oh, pauvre petit chat malade. Oh,
sérieux?
Il faut mettre en place des stratégies.
Eh oui.
Par exemple, Chris Brown, sur son album, je ne sais plus comment il s'appelle, celui avec le fond violet, il y avait au moins... Enfin, il fait des albums avec beaucoup de chansons maintenant.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons pour avoir le maximum de chances de pouvoir les placer dans le Billboard et avoir être assez bien placé.
Avec l'album monte.
Mais alors que s'il misait vraiment sur la qualité... Il avait fait un album avant qu'il n'y avait que 8 chansons, voire 10.
Ouais,
c'est
pas.
Très bien. Voilà, mais tu choisis ce qui est le meilleur. Mais maintenant, ils en font des. Ils sont beaucoup comme ça à faire des ouais. choses comme ça.
Des albums à rallonge. Et des musiques de plus en plus courtes, j'ai découvert aussi.
Et des musiques de plus en plus courtes.
Parce
plus
que, bah, il faut des écoutes.
Ouais.
Il faut des écoutes. Et puis, c'est bon pour TikTok aussi. Donc.
Donc, tu dirais, c'est quoi le volume? Parce que moi, j'essaye de donner quelque chose d'utilisable pour les gens et idéalement d'applicable. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes artistes sur Africrea, je leur dis, ils me demandent les stats. D'après mes stats, moi, je leur ai dit, si je regarde les gens qui vendent, qui me réussissent à continuer à vendre, ils doivent poster au moins 3 nouveaux produits par mois. Mm-hmm. Ça fait quasiment un nouveau produit par semaine.
Mm-hmm.
Ça, c'est le rythme pour tenir. Mm-hmm. Ce que tu penses, moi, j'ai l'impression, de ce que je vois de l'extérieur, qu'en musique, ça prend la même chose.
Alors, je vais te prendre 2 cas différents.
Mm-hmm.
Adèle, elle sort 12 titres par album une fois tous les 2 ans.
Ouais, non, mais.
Mais t'as dit qu'elle était pas. En plus, elle l'a dit dans une émission il n'y a pas longtemps qu'elle n'est pas là pour faire de la musique pour TikTok.
Tandis que Jules va te faire de la musique tous les 6 mois.
Mmh.
Tandis que Gims va te faire la musique, un album tous les 18 mois. Les PNL, eux, ils vont te faire des pauses d'une année.
Ouais.
Tu vois, chaque originalité, authenticité ne se travaille pas de la même façon.
D'accord.
Donc, je ne peux pas venir avec une équation, ça dépend du style musical, de ce que tu fais, de l'angle que tu veux avoir. Donc, sortir beaucoup, mais c'est pas dans ton originalité ou dans ton authenticité, c'est pas intéressant. Tu vas en fait plus te flinguer qu'autre chose.
D'accord.
Donc, quand t'es dans le rap, on est dans l'école du freestyle. Habituellement, tu peux sortir beaucoup de choses, mais quand tu es dans d'autres styles musicaux, c'est pas forcément pertinent de sortir beaucoup.
Ah, donc le style musical aussi détermine la fréquence. Et parce que moi, j'aurai beaucoup le rap, effectivement.
Donc en fait, il faut demander conseil à Mathieu Vence lors d'une consultation pour savoir en fonction de ton cas, pour qu'il puisse te faire.
Tu fais ça des consultations pour
les
braves artistes qui t'écrivent ou LinkedIn, Instagram.
C'est vrai, je l'ai fait pour les artistes, pour les producteurs. Donc en général, je dis tout de suite, un artiste qui vient, il a pas de producteur, il a pas de manager. Mon ami, c'est compliqué.
Sérieux?
Pourquoi?
Tu peux donner le manager de quelqu'un, toi, du coup. Tu peux plus.
Si, je peux donner un manager de quelqu'un, mais quand un artiste vient me voir, qu'il n'a même pas un manager, sachant qu'un manager, c'est le premier qui croit en toi, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore trouvé dans ton entourage une personne qui croit suffisamment en toi pour dire je vais être ton manager ou je vais t'accompagner ou.
Ah, tu dirais ça, c'est intéressant. Toi, c'est l'équipe que tu dirais d'abord.
Eh oui, si tu me dis.
Il faut un manager, première chose.
Faut quelqu'un autour de toi, s'il n'y a même pas encore une personne dans ton entourage qui
croit
dit.
En toi, ouais.
En toi.
C'est terrible, ça, ce que tu dis. C'est-à-dire que même si la personne est nulle, il faut au moins une personne qui croit en toi.
Oui.
Faire un toi, tu dirais,
même un manager qui en fait était comme de l'entourage, là, Vincent Chase, son pote, il faisait vendre des pizzas avant.
Oui.
Eric.
Oui.
Tu dis, il vaut mieux avoir un Eric que personne.
Que personne.
Il faut quelqu'un.
Si t'as pas moi, réussir à convaincre une personne de ton talent.
C'est-à-dire que la personne, du coup, doit bosser à plein temps avec toi ou elle peut faire autre chose à côté et juste être ton manager de temps en temps?
De temps en temps.
Il faut que t'aies au moins une personne qui te gère.
Donc, exactement. Parce que moi, je vais pas t'appeler tous les matins, savoir tu t'es levé. Non, non. Donc, pas du day-to-day.
Ah, parce que le manager doit aussi s'assurer que tous les jours, tu taffes.
Ça dépend du style d'artiste que tu es. Il y a des artistes qui ont besoin de beaucoup d'encouragement. Donc, il faut qu'on l'appelle le matin. Tu t'es levé, t'as mangé, t'es bien. Les artistes qui se gèrent, mais d'autres qui se gèrent pas du tout. Donc, ça dépend déjà. Ça,
donc, je te dirais que le premier critère pour toi, c'est même pas le nombre de followers, le nombre de trucs, c'est vraiment l'équipe.
Numéro 1. Et numéro Ça, c'est le numéro 2, en fait. La première chose que je regarde, c'est est-ce que l'artiste a déjà investi sur lui. Un mec qui vient, qui n'a pas un son à me faire écouter, il a du Jordan, le dernier iPhone, il n'a jamais pu se payer une séance studio pour enregistrer sa voix.
Ouh, c'est possible ça, oui, c'est vrai.
Et je lui dis, mon gars, même si...
Si t'as un iPhone, mais que t'as pas de son dehors sur Spotify, tu calcules pas.
Mais non, t'as de quoi payer pour faire le beau gosse, mais t'as pas réussi à investir sur toi-même. C'est pas moi qui vais mettre un centime sur toi.
Surtout qu'on parle de coûts et d'accessibilité qui sont beaucoup plus facilités aujourd'hui qu'avant.
Ah ouais. Très intéressant, je l'avais pas vu venir celle-là. Donc, effectivement, t'as des gens qui investissent pas sur eux, mais qui veulent qu'on investisse sur eux.
Oui. Je leur dis non.
C'est comme une start-up. Hein. Tu peux pas aller voir chercher des investisseurs et t'as pas mis un euro. Coup,
ouais. C'est une vraie start-up. Nous, c'est pareil. Tu peux pas aller dire je veux avoir un investisseur et j'ai pas d'équipe.
J'ai pas de CTO, j'ai juste une idée, j'ai un peu d'argent.
Ben, les artistes qui viennent, j'ai un concept, j'ai une idée, mais je peux pas encore te faire écouter. Mais non, ça m'intéresse pas. T'es pas encore assez déterminé à mon goût. Et en général, quand un artiste a commencé à investir sur lui, il est conscient, quand tu dis je vais mettre 100 euros, il te dit merci, parce qu'il sait c'est quoi 100 euros.
Ah oui, c'est vrai que ça joue beaucoup. S'ils ont mis leur propre argent, il faut qu'ils aient de l'argent, du coup, il faut qu'ils aient gagné de l'argent déjà.
Non.
Il faut qu'ils montrent qu'ils sont investis, qu'ils ont déjà misé sur eux-mêmes, en fait. C'est comme elle nous expliquait tout à l'heure, Fatia, ce qui a fait qu'on les a pris quand même, qu'ils ont gagné en crédibilité, c'est quand ils ont dit on a vendu notre maison pour lancer notre boîte.
Ah, ça, c'est clair que ça met un coup de pression
direct. T'es d'accord.
Là, tout de suite,
parce qu'en fait, quelqu'un comme Mathieu, c'est un investisseur quand t'es artiste, en fait.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, il investit sur toi, en fait. Donc, il faut lui montrer que tu es déjà engagé, investi, et que tu crois en toi, et qu'il y a d'autres gens derrière qui croient en toi aussi.
Donc, c'est pour ça que je travaille aussi bien avec des producteurs, déjà, des gens qui ont déjà de l'argent. Je leur dis, écoute, je vais t'expliquer où mettre ton argent pour pas perdre tout ton argent. Parce que dans la musique, tu peux perdre ton argent très rapidement. J'avais des gens qui ont déjà mis des 200 000, 300 000 euros, ils ont rien eu.
Je pense que c'est une très très belle conclusion. Du coup, on va essayer de garder la tradition du podcast qui est on essaie de choisir un mot.
D'accord.
Pour représenter tout l'échange qu'on a eu. Et les gens qui sont arrivés jusqu'ici, donc ceux qui ont pu suivre, vont pouvoir faire un commentaire en utilisant le mot en question. Toi, tu dirais quel est le mot que tu tiendrais de tout cet échange qu'on a eu aujourd'hui?
Moi, mon mot de base, c'est la créativité.
Créativité, tu dirais.
C'est de ce dont on a parlé aujourd'hui. Être authentique, original, croire en soi, investir, c'est d'abord être créatif.
Moi, j'aurais bien dit, vu qu'en tant que Sud-Africain, on dit investir. Parce que les gens, je pense, créativité, ils l'entendent souvent. Et je pense que ce que tu viens de dire aujourd'hui sur l'investissement sur soi, je pense pas que beaucoup de gens leur disent.
D'accord.
Parce que je sais pas si tu t'en penses, Vanessa, mais moi, je pense qu'investir... Les gens associent pas forcément la musique avec l'investissement.
Non, c'est clair. Je pense que ça, c'est. Je pense que c'est une des premières choses quand je reçois à des artistes, c'est de se dire, ok, t'as fait quoi? Attends pas que t'arrives dans la maison de disque pour que la maison de disque s'occupe de toi.
Ouais.
Gère-toi, crée déjà ton identité de marque, crée déjà ton univers, et ensuite tu peux arriver en ayant un pitch deck qui présente ton
tout.
Univers,
ouais,
ce que t'as fait, où t'en es, tout ce que t'as déjà parcouru. En fait, en vrai, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faudrait dire en fait aux artistes. Ouais. C'est ça qu'il faudrait qu'on dise en conclusion. Ouais. C'est que vous soyez artiste, vous devez vous positionner comme un entrepreneur qui a une start-up. Sa start-up, c'est sa musique.
Ouais.
Et de voir comment justement la développer sur le marché qu'on souhaite toucher. Enfin bref, j'ai pris l'angle...
Amen, j'aime beaucoup.
Non, je valide.
T'achètes
1000%.
Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis jusque-là. Donc, investir
merci
est le mot-clé de cet épisode. Et,
merci.
Donc, n'hésitez pas à retrouver Mathieu Vence, Vanessa Ronel.
Très bien. À très bientôt.
À très vite.
Merci, ciao.
Merci à vous.